Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Bonsoir à tous les amis, 18h04, ravi de vous accueillir pour un nouveau Team Dugas, le dernier de la semaine, mais ça recommence lundi, bien évidemment, ça ne s'arrête jamais, Team Dugas. Avec ce soir, c'est Jean-Louis Tour qui est parmi nous comme d'habitude. Bonsoir mon Jean-Louis.
Bonsoir Dugas, salut tout le monde.
Ça va mon poulet?
Bah ça va, très bien.
C'est qu'on a une chance exceptionnelle ce soir, on a
Pourquoi
l'équipe de Roten Régal quand même, c'est pas rien.
Ah oui, j'adore.
Ah ben oui, Jérôme Roten et Captain Larqué sont avec nous. Bonsoir les amis et merci d'être là.
Merci à
salut
vous.
Salut Dugas, de rien.
Bienvenue. Ouais. Bah, on va faire monter les audiences là, mon Jean-Louis. Là, on normalement devrait.
Pas de choisir là, c'est comme choisir entre mon père et ma mère. Entre
ouais,
les deux,
c'est...
je peux pas.
Ouais. Ah, c'est vrai. Je comprends, ouais. Mon Jean-Louis. Bon, mais bon, on te demande pas de choisir. Non.
Très bien. Ouais,
franchement, mais ça va pas, toi. Ton arrière-grand-père et ton père.
Captain ?
Non, mais il veut pas choisir, laissons-le.
Laissons-le, oui, t'as raison.
Ouais, laissons-le. Il y a bon. Les élections bientôt, hein. Il y a les municipales.
Ouais,
et tu vas choisir ?
T'as jamais pensé à te présenter comme maire, toi ?
Ah non, pourquoi?
Bah tu serais très bon.
Oui,
rassembleur.
Je serais partout. Et fin psychologue.
Un psychologue, bien sûr, oui.
Je le vois plus président de la Fédé, en fait.
Je vois premier adjoint du gars pour arrondir les angles.
Ouais, bien sûr, exactement.
Hein. Non mais Jérôme, t'as raison, président de la Fédé, moi pour moi c'était
tout ouais, Louis avait dit ouais, qu'il comprenait pas que Jean-Michel n'ait pas tenté et laissé faire, donc voilà, pourquoi
manque
pas.
Manque de jour, travail, je pense.
Oh, où ça, à la Fédé?
Non, de ta part. Ça ferait trop de réunions et tout là.
Oui, j'aime bien les réunions, oui, c'est bien des réunions.
Qu'est-ce
allez,
que ça
on
va
y
être
va.
Chiant ces réunions là, ces machins et tout là, ça va être horrible ça.
Bah, c'est important quand même.
Ouais, bah oui, c'est ça le problème, c'est important.
On a fait une réunion.
C'est que c'est plus important les réunions que l'action.
Ah oui, bah, pour définir l'action, il faut bien des réunions.
Bon, ouais, c'est ça.
On y va donc pour Team Dugas. L'événement ce soir, c'est donc Casque d'or, PSG Real 93, Antoine Comboiré qui offre la qualif au PSG au terme d'un match fou. Il sera avec nous à 19h, Antoine Comboiré, pour en parler. Jérôme, t'étais dans les tribunes au parc? Non.
Ouais, j'y étais, c'était fantastique. Fantastique. Bravo Antoine.
Voilà, il sera là
jamais dans nos
pas que l'équipe était magnifique.
Magnifique. Ouais, tout le match c'est magnifique. On y reviendra en détail. Les buts sont
ça vaut pas l'épopée de Troyes, mais c'est beau quand même.
Je voulais pas le dire mais effectivement
écoute, peut-être 2-3 de Monaco non, mais 2-3 peut-être un petit peu au-dessus.
On rappelle la formidable épopée de Troyes hein, qui a gagné l'Inter Toto. Et
qui a
passé
les
un tour en Coupe de l'UEFA. Voilà.
J'avais posé la question, c'est quoi le parcours de Troyes? Parce que là, j'y étais pas du tout.
Ils gagnent l'Inter Toto. Ensuite, ils font un tour en UEFA et ils sortent au deuxième tour contre Leeds.
Mais on peut gagner l'Inter Toto, ça existe ça?
Ah, bah bien sûr. Bah, vous
tu te qualifies pour la Coupe d'Europe, mais pas gagné l'Inter Toto, c'est pas un prix quoi.
Ah, si.
Bah toi, tu l'as gagné aussi, du gars. Avant,
disons, ça nous a permis de faire la Coupe UEFA, mais je pensais, enfin, j'ai pas reçu une médaille, ni une coupe hein, pour gagner la Coupe Inter Toto. Et dessus, il y a marqué la Coupe à Toto, c'est ça?
Ah, c'est peut-être arrivé après.
T'as reçu la coupe, arrête.
C'est peut-être arrivé après.
Ouais, je l'ai gardé, ouais, merci.
Tu étais dans les tribunes avec le saut et l'appel, Jérôme, là, pour le Real Madrid ou pas?
Pourquoi le saut et l'appel?
Eh bien, non, mais quand quelqu'un, mais t'étais tout gamin, là, non?
Ah oui, oui, c'est possible.
Avec quel âge, 93, t'es avec quel âge, Jérôme?
Gamin, j'avais 15 ans.
Ouais, c'est ça, oui. Ah. Bah,
oui. Bah,
je crois que t'as plus le saut et l'appel à cet âge-là.
Ouais, plus le saut et l'appel.
Non. Mais bon. Bon, ça, ce sera tout à l'heure à 19h.
Mais si j'écoute et si je vois son âge, t'as rêvé devant mes matchs quand même, Jérôme, un peu, non?
Non, il a pas
fait rêver un peu, non?
Ben ouais, ah bah, non, mais
il nous a dit qu'il adorait Bordeaux de l'époque en plus.
Ben oui, c'est vrai.
J'ai toujours aimé les Girondins de Bordeaux et du gars en a fait partie, oui, bien sûr.
Ah oui?
Après, je préfère. Enfin, les supporters. Zizou, mais.
Enfin, les supporters du PSG, ils adoraient pas trop Dugas quand même. Hein. Si je peux quand même.
J'aimais bien Zizou, Tolo, Lisa. Ouais, t'arrives en quatrième, cinquième.
Crossi, Lucas, Guérit.
T'étais dans le top 11, dans mon top 11, t'étais.
Ah, c'est gentil, mon poulet. J'étais pas remplaçant, quoi, pour une fois.
Non.
À 18h30, l'actu. Arsenal battu hier à City. Peut-il devenir un club banal? 32-16 pour débattre avec nous. Si vous êtes supporter d'Arsenal, venez. Et puis, on va débuter donc par l'OM. Mohamed Bouafsi nous rejoint. Bonsoir, Mohamed.
Salut Jean-Louis, salut Dugas, salut Captain, salut Jérôme.
Salut. Bonsoir, Mohamed.
On va débattre sur la saison prochaine qui se profile pour les Marseillais. Mais juste avant, tu as pu joindre Mbaye Niang aujourd'hui, dont on parle énormément de lui.
Je me suis inspiré de Dugas. Dugas voulait qu'on lui parle montré. Directement. Donc, Dugas voilà. voulait qu'il arrête de parler. Bah, moi, je l'ai appelé. Ouais. donc, voilà, je peux pas mieux faire.
Ouais. Oui, bah, en même temps.
Non, mais si c'est pour mettre les points sur les i, les barres sur les t, allons-y, vas-y, moi.
Mais
vas-y,
Dugas prodigue ses conseils. Et après, les gens les écoutent. Bah, ou pas. Chacun les adapte comme ils veulent.
Ouais, en fait, voilà.
Alors, on va l'entendre dans une seconde. Mbaye Niang. On rappelle juste le contexte, oui. Mohamed, de ces derniers jours le concernant.
Bah, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de lui en discussion avec l'Olympique de Marseille. Lui a lâché une petite phrase chez nos confrères de Canal+ en disant qu'il aimerait bien rejoindre l'Olympique de Marseille. Il était en vacances du côté des Bouches-du-Rhône et donc tous les supporters marseillais qui l'ont croisé ont expliqué qu'il leur avait dit qu'il allait rejoindre l'Olympique de Marseille. Donc il y a beaucoup de rumeurs et il a souhaité prendre la parole afin de clore le débat, j'ai envie de dire.
On l'écoute.
Le Stade Rennais, c'était mon club, que j'ai passé de très belles années là-bas. Donc aujourd'hui, retourner au Stade Rennais, ça serait à aucun moment un échec. Au contraire, je suis un joueur du Stade Rennais, je suis sous contrat et je serais très heureux si jamais je devais rester au Stade Rennais de continuer la saison. Moi, j'ai pas envie de rentrer encore dans toutes ces discussions, voilà, de Marseille, pas Marseille. La seule chose qui est vraie, c'est qu'aujourd'hui, voilà, Mbaye, il a des agents, voilà, Grégory Gélabert qui s'occupe de ça. Maintenant, j'entends beaucoup de choses, c'est vrai, même sur cette histoire du Qatar. Moi, je suis au courant de rien. Donc, moi, c'est vraiment uniquement penser au football et prendre du plaisir. Et mes agents s'occupent du reste.
Voilà, ça va dans le bon
parfait.
Sens.
Parfait.
C'est ce que tu voulais,
et
du gars.
Bon. Et oui, les vaches sont bien gardées. Chacun a sa place, chacun fait son boulot. Et
il parle de lui à la troisième personne.
Mais ça, c'est secondaire, quand
même. C'est secondaire et c'est pas du tout lui qui a allumé la mèche pour Marseille.
Oui, bah c'est ça, non, ça c'est sûr, Capitaine, t'as raison.
C'est pas lui, non. Il a dit arrêtons d'en parler, mais.
Oui, bien sûr, c'est lui qui a.
Non, c'est pas lui, non. C'est...
Oui, non, mais là t'es ironique parce qu'effectivement ça vient de lui et t'as raison. Mais bah, on sent qu'il a compris les choses quand même, qu'il avait peut-être trop parlé et que maintenant il fallait arrêter
de parler. Lui le dit, voilà. j'ai envie de clore le débat, je serai à la reprise du Stade Rennais. Je serai à la reprise du Stade Rennais la semaine prochaine, j'ai beaucoup de respect pour ce club. On verra comment ça se termine, si je reste au Stade Rennais et si je dispute la Champions League ou si je pars. En tout cas, j'ai envie d'arrêter tous ces débats qui portent autour de moi, ces commentaires et surtout je respecte beaucoup le Stade Rennais. C'est ça, son opinion, sa pensée. Aujourd'hui, il a envie aussi de montrer que les supporters rennais, il ne leur manque pas de respect, qu'il a envie de continuer au moins à garder cette belle image auprès de certains supporters.
Voilà, il a envie de partir, en gros. Il a envie de partir.
Non, mais il dément pas son envie. Il dément pas son envie, mais il dit, en gros, en clair. Non, mais il dit, Jérôme, en clair. Bah non, mais... Et ça, c'est plutôt respectueux. Il faut que le Stade Rennais s'y retrouve aussi. S'il s'y retrouve pas.
Sans blague. Non, ils vont te faire un chèque pour que tu partes en plus. Non, mais sans déconner.
Non, mais c'est très bien. Mohamed, ne te fais pas chauffer. C'est non, très bien. Voilà, il a fait.
Non, mais bon, on a compris.
Du gars, j'ai appris auprès de toi.
Absolument se barrer. Les agents. Donc lui, en fait, il est au courant de rien. Ah ben non, surtout pas. Ben attends, le joueur qui est quand même le premier concerné, surtout pas, il est au courant des discussions que ses agents peuvent avoir. Ah ben non. Trop de respect pour le Stade Rennais.
Non, là, t'es de mauvaise foi parce qu'il répond sur la question. L'interview est à retrouver sur le site rmcsport.fr. Il répond par exemple sur l'intérêt du Qatar. Il dit cet intérêt pour moi, il est pas lié à l'Olympique de Marseille. Arrêtons de dire par exemple que l'intérêt du Qatar est sorti pour faire monter la pression. Aujourd'hui, c'est important de le dire à tous les supporters olympiens. Il y a aucune offre de l'OM. L'OM ne peut pas se permettre de se payer Mbaye Niang à 20 millions d'euros. Il n'y a rien, aucune discussion et qu'on arrête de faire rêver certains pour rien du tout.
Ah oui. Alors, Capitaine, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Non, mais simplement qu'il n'est au courant de rien, mais il en parle quand même. Visiblement, il sait que du côté du Qatar. Il sait que du côté du Qatar.
Les deux là, comment ils sont ?
Ah ouais, non, mais. Il sait que du côté du Qatar, il y a un intérêt. Et du côté de Marseille, c'est vraiment pas lui qui a allumé la première mèche. Non seulement il a allumé la mèche, en plus, il s'est promené. Visiblement, j'étais pas au courant du côté de Marseille, puisqu'il a croisé, selon Mohamed, beaucoup de supporters.
Sa femme est marseillaise, Jean-Michel.
Comment ?
Sa femme est marseillaise.
Alors, c'est normal qu'il soit du côté de Marseille, qu'il a envie d'aller à Marseille, et qu'il ira peut-être à Marseille, mais il n'est au courant de rien.
Non. Il faisait ses footings autour du stade Vélodrome.
T'as vu du gars comment ils sont les deux là ?
Ah, ils sont magnifiques.
T'es gentil à côté.
Hein. Ah, ils sont très bons. Ils sont très très bons.
Bon, voilà pour le cas Mbaye Niang. Mais donc Mohamed, tu nous as bien dit, l'OM ne peut pas mettre autant d'argent sur lui. Ça veut dire qu'on se prépare à un mercato où
va falloir un échange avec Mitroglou. Peut-être à Rennes, ça peut les intéresser.
Ah, oui. Bien
c'est vrai qu'il revient.
Eh oui. Là, attends.
Là, faut être bon vendeur quand même. Hein, si t'arrives à faire ça.
Ah ben là il faut un vendeur de bagnole, je te le dis de suite.
Non mais en fait il y a un bon président. Ah ben,
Arène, quelques vendeurs de bagnole qui, ouais. qui peut vendre.
Mais non, ils ont des yeux. Arène, enfin, tu vois.
Ils ont Julien Stéphan comme entraîneur quand même.
Ouais. Donc ouais. Il faudra être malin pour l'OM cet été, plus que de cette façon, mais il faudra être malin. Sachant qu'en plus il y aura la Ligue des Champions, est-ce qu'il faut être vraiment exigeant avec l'OM la saison prochaine ou il faut se préparer à une année compliquée? Appelez-nous au 32-16 pour en débattre. Duga, comment tu vois les choses? Tu nous as souvent dit que tu le sentais pas quand même. Hein.
Non, mais comment tu ils ont, écoute, ils ont réussi l'essentiel, ils ont gardé leur coach, voilà, les joueurs sont ravis. Je l'ai dit, c'est quand même important de te dire que les joueurs qui vont reprendre l'entraînement, ils sont contents d'aller à l'entraînement. C'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Tu vas me dire, c'est normal. Mais bon, dans les par les temps qui courent, vu ce qui s'est passé, les annonces, les embrouilles qu'il y a eu ces derniers mois à Marseille, les choses qui ont bien fonctionné, c'est le terrain, c'est l'état d'esprit. Voilà, ça l'a fait l'année dernière. Est une bonne saison, enfin cette année, pardon, ou l'année dernière, je sais pas comment on dit, est une bonne saison pour l'OM. Ils vont pouvoir capitaliser là-dessus, éventuellement. Continuer à progresser. Pardon, excuse-moi, ils connaissent parfaitement ce coach. Oui, il va falloir être malin, il va falloir essayer de se renforcer.
Comment
avec des prêts, il va falloir être malin. C'est là que Aldridge va certainement être aussi important. Est-ce qu'il y a un nouveau directeur sportif qui va arriver d'ici là, qui va avoir le bras long, qui aura des contacts et qui va peut-être avoir une ou deux touches, un ou deux joueurs, bons joueurs à se faire prêter? C'est possible aussi. Voilà, il va falloir être malin. Mais c'est jouable, c'est faisable. Il y a une ossature. Voilà, je suis pas spécialement inquiet. Je m'attends pas à grand chose. On verra bien. Arrêtons de faire des plans sur la comète, notamment en Ligue des Champions. On sait pas ce qui va se passer, bien évidemment, que Marseille. Oui,
c'est quand même là qu'on les attend.
Pas vraiment, Jean-Michel. Tu crois sincèrement
Non, pas qu'on les attend. Ils vont pas gagner. Ils sont pas favoris. Mais on attend quand même un autre comportement que celui qu'ils ont eu lors de leur dernière campagne en Ligue des Champions.
Est-ce qu'ils en ont les moyens, capitaine?
Je ne pense pas, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être une saison compliquée. J'ai été quand même très surpris du revirement d'opinion, de situation, d'avis de Villas-Boas, même si les joueurs voulaient de lui. Lui, il n'avait eu de cesse de dire qu'il partirait si Zoubi partait. Il est resté, c'est bien, mais aujourd'hui la pression elle est sur lui, elle est sur les joueurs. Moi je ne les vois pas faire une saison où ils vont bousculer la hiérarchie. Alors dans le football français, oui, dans le football français, ils peuvent être aussi bons qu'ils l'ont été cette année et réussir un aussi bon classement. Mais est-ce que véritablement ça suffit de finir à je ne sais pas combien de points du Paris Saint-Germain, alors qu'il reste 10 matchs à jouer?
Mais est-ce que la priorité, justement, capitaine, c'est pas de se qualifier régulièrement?
Mais de se qualifier, pourquoi faire
En Ligue des Champions. Ça voudra dire que.
Est-ce que la dernière fois, ils n'ont pas fait.
Oui, mais ça montrera une forme de régularité, de participer peut-être deux années sur trois à la Ligue des Champions, de montrer qu'ils sont en haut du classement de la Ligue 1. Et puis après, en attendant, j'ai quelques bons jeunes du centre de formation, le président ou l'actionnaire qui va se décider à mettre un peu d'argent. Et puis, ils pourront se lâcher. Mais il faut que l'OM reste en haut du classement de la Ligue 1 et se qualifie régulièrement en Ligue des Champions. Après, Ligue des Champions, à mon avis, moi, c'est secondaire. Malheureusement.
C'est bien la dernière fois qu'ils ont fait, c'est bien la dernière fois qu'ils ont fait pas loin de 0 points en Ligue des Champions.
Ouais, je crois que c'était 0, oui. Je crois que c'était
0.
Exactement.
Et ça, moralement, psychologiquement, c'est bien, Jérôme. Voilà.
Alors, Jérôme, comment tu vois les choses?
Quel génie. C'est la classe. La phrase qui.
C'est le sniper. Voilà, c'est tout.
Oui, mais il est bon. Oui, c'est fou qu'il va être remplaçant l'année prochaine. C'est fou. Allez, comment on peut se passer d'un talent pareil? C'est fou.
Mais on s'en passe pas.
Mais je pense que. Je pense qu'ils s'en rendent compte depuis qu'ils ont pris la décision, ils s'en rendent compte du gâteau.
Ah ouais,
moi je m'en mords les doigts. Ils se disent merde. Hein. Non, pas du tout. Mais je suis d'accord avec Duga sur le fait que déjà briller sur la scène européenne. Bien sûr, tous les clubs ont envie de briller quand ils font la Coupe d'Europe. Mais l'essentiel de l'Olympique de Marseille, c'est quand même de se stabiliser en championnat, de confirmer leur très bonne année dernière, de rester dans les trois meilleures des équipes du championnat de France. Après, je pense qu'avec cet effectif là aujourd'hui,
c'est la coupe UEFA. C'est-à-dire sur la Ligue des Champions, il faut qu'ils fassent quelques bons matchs, il faut accrocher la troisième place et se battre en UEFA pour faire un parcours sympa. Exactement. Voilà, ça doit être ça l'objectif de l'OM, pas plus, faut pas rêver.
Bah ouais, tu peux pas. C'est vrai que tu peux pas l'annoncer comme ça au départ parce que tu restes compétiteur. Tu commences la Ligue des Champions, même si le tirage peut être très très difficile. T'as envie de contrarier les grosses cylindrées et peut-être d'être la bonne surprise. Mais en effet, si tu finis troisième de ce groupe en Ligue des Champions, tu seras qualifié en Europa League. Avec un petit peu de chance, il y aura une bonne campagne européenne. Ça a été le cas il y a 2 ans. Alors pourquoi pas la rééditer, même si c'est pas facile d'aller jusqu'en finale. Mais l'essentiel, c'est d'avoir de la stabilité dans les résultats en championnat. Et avec cet effectif-là, sans recrues, sans perdre 2-3 joueurs importants.
Ils vont perdre des joueurs.
Bah, je pense pas, même, Jean-Michel. Moi, je pense pas.
Même si le fair play financier semble s'assouplir, d'après ce que j'ai pu lire et entendre, je crois quand même qu'ils sont sur des charbons ardents là, c'est compliqué, non? Ils sont pas obligés de vendre, Mohamed?
Tu veux qu'ils vendent qui?
Ils étaient censés
vendre qui, en fait?
Ils étaient censés obliger
Xabi et Iniesta.
Ouais. Ils étaient censés vendre jusqu'au 30 juin. La limite, c'était le 30 juin fixé, et 60 millions d'euros de vente. Ensuite, il y a eu le Covid-19. Le mercato international n'est pas ouvert, donc ça, l'UEFA va aussi le prendre en ligne de compte. Et en tout cas, ce qu'on répète au sein de l'Olympique de Marseille, c'est que l'inquiétude, elle portait sur la saison prochaine, si l'OM était amené à se qualifier encore une fois en Champions League. Là, il y avait plutôt de l'optimisme sur cette saison. On attend la décision de l'UEFA la semaine prochaine, jusque 15-20 jours. Elle devrait tomber la première semaine de juillet, cette décision. On est plutôt optimiste du côté de l'Olympique de Marseille, Jean-Michel.
On va donner la parole à Loïc, qui attend au 32-16, qui est supporter marseillais. Salut Loïc, bienvenue dans Team Dugas.
Bonsoir.
Salut,
Loïc.
Monsieur.
Bienvenue poulet. Dis-moi Loïc, comment tu vois, est-ce que tu es optimiste, est-ce que tu as peur, ou tu attends quoi de cette saison prochaine?
Non, on peut pas dire que les supporters, on a peur. Je pense que la saison va se dérouler en deux phases. On va débuter le championnat avec une équipe. Et je pense qu'au 31 août ou à la clôture du mercato, on aura certainement une deuxième équipe parce que financièrement, on va être dans l'obligation de vendre.
Pardon de te couper, Loïc, mais la fin du mercato, elle est beaucoup plus tard cette année.
C'est décalé d'un mois, donc c'est ça. Hein.
Non, mais il y aura peut-être même une prolongation, il y aura peut-être même une deuxième séquence du mercato d'été qui pourrait avoir lieu mi-novembre. C'est des réflexions qui sont menées par l'UEFA.
D'accord, donc ça s'annonce encore plus compliqué déjà pour l'entraîneur, pour avoir une lisibilité 11 à peu près type. Après, l'année dernière, on a fait une très belle saison, sans avoir un jeu toujours flamboyant, mais en tout cas efficace. L'année prochaine, ça va être plus compliqué avec les matchs de Ligue des Champions en semaine. Il faudra jouer avec du cœur, avec des idées, et surtout donner une bonne impression, se battre. Il n'y a pas de raison que tu aies un malentendu, tu accroches un gros, quoi.
Quels sont les postes pour toi qu'il faut éventuellement doubler pour essayer d'être le plus performant possible sur les deux tableaux pour toi?
Il faut absolument un latéral gauche. Hein. La question de l'avenir d'un centre. Grand attaquant. Si par exemple il signe Niang, c'est quand même un profil de pivot, c'est un joueur qui a du gabarit, qui est imposant.
Ouais, il est intéressant, ouais.
Donc tu peux pas jouer en 4-3-3 et avec Benedetto dans ce 4-3-3, ça veut dire forcément que Benedetto ira sur le banc et que Germain ira voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Toujours quid de Payet à gauche, moi je suis vraiment pas fan à gauche parce qu'il défend pas. On sait qu'il est meilleur dans l'axe et à faire le jeu ou faire jouer les autres. Quid aussi de Thauvin, quand il va revenir, à mon avis, il va revenir avec lancé comme un frelon, hein. Comme dit Vincent, il y a l'Euro qui va suivre et qui va arriver. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont se mettre au niveau. Les Rongier, les Sanson, les Thauvin, les Camara, ils vont vouloir, tu vois, apporter du volume et jouer avec leur cœur. Alors j'espère vraiment qu'ils vont pas se tromper de combat.
La recrue, ça peut être Thauvin aussi. Thauvin, il n'a pas joué de la saison. Thauvin, ça peut être aussi une recrue pour l'OM.
Capitaine, toi, tu ferais beaucoup de retouches pour prolonger la question de Dugas à Loïc à l'instant.
Non, mais là, le problème, c'est pas faire beaucoup de retouches ou peu de retouches. Le problème à l'Olympique de Marseille, c'est que leur marge de manœuvre, elle est égale à zéro. C'est pas une question de retouches. Là, j'ai vu qu'ils étaient heureux, et c'est tant mieux, surtout pour les jeunes, qu'ils avaient fait signer 4 ou 5 jeunes pro.
Ouais, des talents, des pépites vraiment. Soirée, Bertelli.
Arrête Mohamed.
Non, mais je
commence pas. Ne commence pas à parler de pépites alors qu'ils n'ont pas fait un match en pro.
Jean-Michel,
arrête de parler de pépites, Mohamed.
Jean-Michel,
tu vas leur tourner la tête, ils vont avoir les pieds carrés.
C'est la nouvelle génération.
Jean-Michel,
laisse-moi juste dire que c'est des joueurs qui avaient des propositions à l'étranger. Donc à un moment, s'ils restent à l'OM, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est tout. C'est ce que je te dis, Jean-Michel. C'est juste une bonne nouvelle. On préfère ça à Kouassi. C'est tout.
Non, mais écoute, je t'ai dit que c'était bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, Mohamed? Toi, tu m'ajoutes que c'est des pépites. Ils ont 19 ans. Si c'est des pépites, il faut qu'ils jouent en pro. Mais s'ils jouent à 18 ans, ils marquent 50 buts.
Quand on regardait l'ORTF, toi, t'étais une pépite pour les journalistes de l'ORTF.
Mais je m'en fous de moi. Je parle des jeunes qui ont signé. Les jeunes qui ont signé, bon, ils n'ont pas fait un match en pro.
Je retire le mot pépite, capitaine.
On est désolé. Ouais,
t'as été mon pépite,
capitaine. On va dire joueur à fort potentiel.
Futur ballon d'or.
C'est ça qui monte en puissance.
Oui, exactement. Futur ballon d'or.
Putain. Ouais. Jean-Louis, l'émission de demain, elle est morte. Il a tout donné ce soir.
Il a tout donné.
Il est mort, il est cramé.
Non, il est fort, il est mort enchaîné. C'est ça qui est impressionnant.
Tisane et Oli.
C'est l'époque du tilleul maintenant. C'est bon, là, c'est la grande époque du tilleul.
Ah ouais. Très bien. Alors, Loïc, merci beaucoup d'être venu au 32-16.
T'as bien fait de venir, Loïc.
À très bientôt, ouais. Loïc. Tu reviens quand tu veux pour parler.
Et Mohamed, aussi, t'as bien fait de venir, Mohamed. Oui. Vraiment.
Bravo pour cette intervention.
Pardon, Mohamed, mais c'est sorti du fond du cœur.
Quelle fulgurance. C'est génial.
Quelle pépite, ce Mohamed.
Oui.
Ah, bah, c'est lui, c'est une pépite. Oui, c'est sûr. Il a prouvé, il a confirmé au niveau. Oh. Merci Mohamed.
Merci monsieur. Merci capitaine.
De rien.
Dans un instant Arsenal. Petit tu quand tu veux, Mohamed, hein. Un club banal. J'ai l'impression que c'est le chemin que prend Arsenal. On en débat ensemble avec vous au 32-16. A tout de suite.
RMC 18h-20h.
Tim Dugas,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h30, Tim Dugas continue avec Capitaine Larquet, avec Jérôme Rotten, avec Jean-Louis Tour. Mon Jean-Louis, ça va être le moment de parler d'Arsenal qui s'enfonce. C'était une catastrophe hier, Arsenal, une nouvelle fois.
Exactement. On va en parler avec Julien Laurent dans un instant et puis il y aura le journal moyen 18h45 avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Bonjour les copains. Je ne sais pas si c'est votre spécialité à tous autour de la table. On va parler vitesse de pointe chez un joueur de foot.
Ah.
Ouais, alors Jean-Louis, toi, déjà, je sais.
Mais moi, non. Dugas, il allait vite.
Dugas, va vite.
Capitaine, on sait pas parce qu'on a jamais vu les matchs.
Capitaine, le ballon allait vite. Il accélérait le jeu.
Jérôme, on a vu. Vite, bon, c'est le ballon qui allait vite avec Jérôme.
Oui, voilà.
C'est la voiture qui allait vite avec Jérôme.
Dugas, t'allais vite, toi. On va en parler à 18h45.
Oui, je courais vite pour un grand. Moi, je courais très vite. Ouais.
Aujourd'hui, on peut calculer la vitesse de pointe d'un joueur de foot. Vous allez me dire si c'est impressionnant ou pas, parce que moi, forcément.
Tu sais pas.
Je ne vais pas très vite.
Oui, ça oui. À tout à l'heure, Adrien.
Si, bois un coup, tu vas très vite.
Ah oui, le coup de très très vite. Oui.
Ça, il va vite, ouais.
Vous avez pu le constater, les amis.
Ah oui, oui.
Alors, ça, vidéo.
La spécialité d'Adrien, c'est pas.
Ah non, mais t'es pas obligé de tout dire, en vrai.
Bon, tout le monde le sait. C'est la conversation avec l'ancien champion où il veut refaire la carrière du.
Je veux tout savoir.
Voilà.
Ah ouais.
J'ai pas... Jérôme, t'as connu
je
ça.
Je n'ai pas encore pensé, capitaine Larquet. Ça peut arriver à tout moment, capitaine.
Voilà, du gars, je pense que t'as trop de respect. Pour Dugas.
Non, Dugas, il m'a fait comprendre au bout de 12 minutes que ça le saoulait, donc je suis parti voir Jérôme, qui aime bien parler de lui, donc ça passait mieux, tu vois.
Dingue, vous êtes bien
Dugas, il m'a dit, bon, t'es gentil.
Il cherchait Franck Leboeuf, mais il l'a pas trouvé non plus.
Dugas m'a dit, mais c'est qui ce clown? Allez, va voir tes copains, laisse-moi tranquille.
À tout à l'heure, Adrien, merci. Julien Laurence.
Je me suis rendu compte, je me foutais de sa gueule.
Non, ça m'étonnerait, Jérôme, toi t'es pas comme ça.
Si.
Julien Laurence nous rejoint, notre correspondant en Angleterre. Salut Julien.
Salut Jean-Louis, salut à tous.
Salut Julien.
Tu vas nous aider dans le débat suivant concernant Arsenal. Ah là,
il va prier avec nous surtout, ok, il va nous aider.
Il va vous aider parce que c'est un grand connaisseur d'Arsenal.
Ah ouais, mais bon.
Et même un peu supporter, je sais pas si on peut le dire, mais.
Oh, voilà, faut tout lâcher là.
Bref, voilà. C'était donc la reprise hier en première ligue. City a battu Arsenal 3-0 sans forcément briller. Mais à l'arrivée, ça fait 3-0. La situation se corse pour les Gunners en vue de l'Europe après ce match. C'était un match en retard. 9e du classement, donc Arsenal, à 8 points de la Ligue des Champions. Ce club peut-il devenir banal, un club du milieu de tableau, tout simplement, vu la dégringolade de ces dernières années? Et est-ce qu'il pourrait sombrer donc dans l'anonymat? 32-16, appelez-nous pour en parler. Dugas, quand j'ai dit banal, t'as dit, et encore c'est gentil, banal.
Bah ouais, c'est pire que banal, c'est-à-dire que quand tu avant tu savais qu'Arsenal jouait, tu zappais pas quoi. Tu dis allez, je vais regarder, je vais voir une équipe qui a une identité de jeu, qui se porte vers l'avant, qui a un style de jeu. Voilà, Arsenal c'était quelque chose. Ben là c'est plus rien. Alors après c'est le lot de beaucoup d'équipes hein. Arsenal n'est pas une exception, ou beaucoup de clubs pardon, qui ont brillé, qui ont su briller et qui ont raté des virages importants. Ça a été le cas de la part d'Arsenal avec Arsène Wenger, peut-être qui a été trop loin dans son management. On l'a maintenu peut-être un petit peu trop longtemps, mais malgré
oui,
tout.
Oui, sauf que le début de la fin, c'est quand même le départ d'Arsène Wenger.
Oui, mais ça, c'était quand même pas jojo avec Arsène non plus. Hein. C'était vraiment pas jojo c'est non plus. Non, mais après,
c'est le début de la fin, mais il n'y a pas que ça.
À mon avis, le plus gros problème qu'il y a eu, c'est quand il a fallu construire ce stade qui a coûté très très cher, et ils ont fait des choix de joueurs, des choix financiers en rapport avec la construction du stade et en essayant de tenter trop de coups de joueurs en devenir, qu'ils avaient plutôt réussi d'ailleurs par le passé avec Vieira, avec Henry, avec Pires, avec Wilton, avec notamment des joueurs français, des opportunités. C'est plus le cas, ils se sont trompés, ils ont perdu le pif pour recruter des joueurs capables d'amener Arsenal vers le haut, et puis la concurrence c'est aussi élevée. Arsenal a continué à bricoler dans ce football qui est de plus en plus compétitif et de plus en plus dur. Et bien Arsenal est rentré dans le rang, et c'est vrai que c'est devenu une équipe qui a perdu son âme, qui a perdu son jeu, qui a perdu son âme, qui est chiante à avoir joué, qui joue à deux à l'heure. Enfin, moi, Chaka, je comprends même pas comment ce garçon peut jouer au foot. Alors, hier, il s'est fait expulser, tant mieux, mais bon, ça a pas empêché d'en prendre trois. Mais pour moi, il y a des joueurs depuis bien longtemps qui ne méritent pas de porter ce maillot, quoi. C'est des joueurs moyens de première ligue qui se retrouvent à Arsenal, c'est la cour des miracles, quoi.
Oui, j'allais dire, si c'est devenu un club moyen, c'est normal, mais il y a quand même des moyens, il y a eu quand même des investissements ces dernières années.
Il y a eu pas mal d'erreurs, Jean-Louis. Oui, il y a eu des erreurs, parce que moi je veux bien que Jean-Michel dise le début de la fin, ça a été le départ de Wenger. Excuse-moi, mais Wenger, il y a des saucisses, il y en a beaucoup sur les dernières années où il était là. Et le club, il a stagné.
Je ne crois pas qu'avec Arsène Wenger, l'équipe ait été 9e ou ait terminé 9e d'un championnat.
Mais elle était catastrophique, l'équipe. Alors peut-être
la fin d'Arsène était magnifique et mirobolante. Je te dis que
c'est pire sans Arsène Wenger. Ça vous va comme ça?
Ouais,
c'est pire parce que après Unai Emery, alors ça a été peut-être une erreur de casting sur le fait de le prendre à la suite de son aventure parisienne qui a laissé beaucoup de traces dans la tête d'Unai Emery, peut-être. Mais Unai Emery, c'était pas un cadeau. On se souvient dans quel état est le club quand Arsène Wenger s'en va. Hein, il y a plein de supporters, et Julien il pourra le confirmer.
C'est vrai, des mois
qui réclamaient le départ d'Arsène Wenger. Il se sauvait toujours parce qu'il y avait cette fameuse qualification en Ligue des Champions, mais bon, les résultats sont pas mirobolants. Hein. Il y a juste à regarder le palmarès et les erreurs de casting sur certains joueurs. Là, tu parles de Chaka. Ben Chaka, c'est pas Unai Emery, c'est Wenger qui l'avait pris, et il est encore là avec un bon contrat.
Tous les matchs, lui. Hein. Comment il fait, lui? Les entraîneurs échangent, et ce Chaka, il joue tous les matchs. Il va à deux à l'heure. Il fait que des passes en arrière.
Peut-être que Julien
Laurent
peut nous expliquer. Il y a peut-être un truc.
Chaka, mais c'est une blague.
J'ai l'impression que depuis 4 ans, ça fait 4 ans.
Alors il arrive à sauver ses matchs parce qu'il marque un but de loin de temps en temps, mais comment tu fais pour jouer en récupérateur avec Chaka?
Non
mais
Julien Laurence.
C'est une très bonne question, Duga, tu as raison, c'est une très bonne question que beaucoup de supporters aussi se posent, que beaucoup de gens ici en Angleterre se posent également. Alors c'est quelqu'un qui a un vrai leadership dans le vestiaire. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas, effectivement, avec le ballon. Parfois, c'est très compliqué. Rappelez-vous aussi l'année dernière, c'est quand même un joueur qui est remplacé par Unai Emery, qui enlève son maillot, qui jette son maillot au sol. Et à ce moment-là, j'aurais pu jurer, j'aurais mis ma maison, toute ma famille, j'aurais parié qu'il porterait plus jamais le maillot d'Arsenal. Il est revenu. Arteta en a fait de nouveau un de ses cadres et un de ses leaders. C'est vrai que j'ai parfois un peu de mal à comprendre aussi.
Et puis je pense aussi que Arsenal a perdu beaucoup. Enfin, puisque Dugas, Jérôme, j'imagine que tu allais commenter des matchs d'Arsenal à l'Emirates.
Ouais, j'en ai vu beaucoup. Ouais.
C'est d'une tristesse affligeante.
Il
n'y a plus aucune ambiance. Alors, Julien, comment s'appelait leur ancien stade où je suis allé plusieurs fois?
Highbury.
C'était évidemment.
Quel accent, Dugas, bravo.
C'était pas confortable, c'était un vieux stade, mais au moins il y avait une âme. Et je pense que depuis qu'ils ont changé de stade, ils ont perdu une grosse partie de leur âme, les Gunners.
Julien, est-ce qu'il n'y a pas trop, à bout d'un moment, il y a eu tellement d'étrangers dans cette équipe. Moi, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas trop d'étrangers dans cette équipe, au bout d'un moment, revenir à une âme un peu plus anglaise, tu vois. À l'époque, moi, je me souviens, on parle des étrangers qui faisaient les miracles et le bonheur d'Arsenal. Mais il y avait aussi des Anglais qui étaient là, quoi. C'était l'âme de l'équipe. Il y avait des. On peut pas revenir. Il y a qui comme Anglais dans cette équipe-là?
C'est beaucoup de jeunes, du gars. C'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, je crois que dans l'émission où on parlait des Invincibles et on parlait de Thierry Henry et tout ça, on en avait parlé de ce noyau dur, là, voilà, exactement, les Keown, Adams, Dixon, ben oui. Parlor.
Ils étaient tous derrière, ça, c'est vrai.
Oui, mais là, attendez, pardon. C'est vrai, effectivement, le manque d'anglais, ça peut être un problème. Est-ce que c'est pas juste le manque de joueurs de renom, enfin, ou de joueurs? Parce que là, quand on regarde le 11 d'hier, alors pardon, je connais peut-être pas tous les jeunes du monde, mais il y a plein de joueurs qu'on découvre ou qui ont très peu de matchs.
Ils sont encadrés par qui? Regardez David Luiz hier, il est rentré, il fait un penalty, il se fait expulser. David Luiz, ça fait longtemps qu'il a décroché. Au bout d'un moment, c'est censé être les leaders de cette équipe qui sont censés amener les jeunes à évoluer, à progresser. Au bout d'un moment, on prend des mecs des vrais Anglais, des mecs qui vont montrer l'état d'esprit, qui vont montrer le truc. Je sais pas, à un moment ou l'autre, il faut tout repenser. Arsenal, faut arrêter le jeu à l'Arsenal, c'est terminé, c'est fini.
Ah oui, là, on n'y est plus.
Pour débuter, là, on va commencer par le gardien. Depuis quand les Arsenal, il n'y a pas eu un grand gardien? Parce que le dénommé Leno, là, qui était, je crois, à la coupe, ce qu'on appelle pas la coupe des confédérations, avec l'équipe ici, d'Allemagne B, c'est bien ça?
Oui.
Enfin, je dis Allemagne B parce que c'était...
Quand ils ont gagné, ouais.
Bon, et déjà, il était très discuté dès le départ. Enfin, c'est quand même, au départ, c'est un gardien très, très, très moyen. Et il y a fort longtemps, peut-être.
Ah, ils ont eu Petr Čech.
Voilà, j'allais dire Čech. Voilà,
en fin de carrière aussi.
Et ça commence à.
Et comment tu fais pour garder encore un mec Arsenal comme Ozil? Comment Ozil peut encore être à l'OM?
Merci Arsène Wenger. On parlait de Wenger tout à l'heure. C'est Arsène lui donne son contrat à 350 000 euros par semaine. C'est Arsène Wenger. Et on a parlé tout à l'heure du début de la fin par Arsène. Bien sûr que Arsène, il a fait un travail fantastique.
Non, mais. Je rigole.
Non, parce qu'il y avait, t'as compris que Jean-Michel, il défend Arsène Wenger.
Non,
qu'il a
c'est pas vrai.
Pendant longtemps.
Non, justement. Il avait fait une recrue, un défenseur central qui avait les rênes dans le béton, là, qui se tournait, il fallait qu'il mette la flèche.
Mertesacker, non?
Ah, Mertesacker.
Ouais, Mertesacker. Oh, ouais, Moustapha, on le met où aussi?
Moustapha, j'ai vu à Valence, j'avais fait un match de Ligue des Champions. Moustapha, mais il est. Oh là là. Non, mais il faut arrêter.
Jérôme, il aurait dû se faire opérer de la cataracte, Arsène, sur les dernières années.
Julien, si tu vois chacun, tu lui donnes le bonjour de la part du gars.
Comme à chaque fois.
Avec plaisir. Non, mais juste pour finir, de toute façon, une fin de cycle comme celle de Wenger après 22 ans au club, n'importe quel club, que ce soit Liverpool, Manchester United, la JOCR ou Arsenal, c'est toujours très compliqué, quoi qu'il arrive, de toute façon, de préparer et après de mettre en place un après-Wenger. Ils ont changé toute la structure du club puisque Wenger, il faisait tout. Si tu voulais commander un stylo au centre d'entraînement, il fallait que Arsène signe en bas de la feuille. Enfin, c'était incroyable. Donc, quoi qu'il allait arriver, ça allait être très compliqué de le remplacer et de passer derrière, que ce soit Unai Emery ou n'importe qui d'autre. Bien sûr, il y a eu des erreurs. Arsène en a fait lors de sa fin de règne, entre guillemets. D'autres l'ont fait. Unai Emery a fait des erreurs. Il est resté que 18 mois. Je pense qu'avec Arteta, ils ont un bon entraîneur, mais un très jeune entraîneur qui a aucune expérience. Et lui aussi va lui falloir du temps. Il y a aussi des très jeunes joueurs. Il y a eu d'énormes erreurs dans le recrutement. Bien sûr, le contrat d'Ozil, c'est hallucinant. Un joueur pareil à 350 000 euros par semaine, qui a encore un an de contrat, d'ailleurs, je vous le rappelle, messieurs. Donc voilà, bien sûr qu'il y a des erreurs. Après, ça reste un club qui a énormément de fans partout, qui est un des clubs qui vend le plus de maillots en Angleterre, où t'as quand même des gros contrats de sponsors. Mais c'est vrai que l'absence de Ligue des Champions, ça va faire 4 ans maintenant. Financièrement, ça fait énormément de mal à ce club. Et à un moment, par rapport à la masse salariale, ils vont devoir vendre des joueurs, leur plus grand nom, entre guillemets, parce que sinon, financièrement, ça va commencer à être très, très compliqué.
Merci, Julien. À très vite pour parler d'Arsenal et de chacun. On a bien compris que.
Ouais, non, si on peut ne pas en parler, non. C'est bon. Ouais, non, ça va pas s'améliorer, on en parlera quand ça sera bien. Hein,
on pourrait l'appeler.
Qui?
Chacun.
Pour dire quoi, qu'il est pas bon.
C'est un Suisse qui parle pas français, hein, chacun.
Ouais, mais on peut traduire, on se débrouille. Duga parle toutes les langues, de toute façon. Donc, voilà.
Non, on va m'expliquer quoi, pourquoi il fait quatre pas sur cinq vers sur le côté ou vers l'arrière
ou appelons ses entraîneurs pour expliquer pourquoi il le met titulaire à chaque fois.
Tout le temps.
Donc on enquête.
Il joue. Bah tous les entraîneurs le mettent.
Allez, merci Julien. Dans un instant, journal moyen. Merci. À tout de suite.
RMC, 18h20.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h47, Team Duga continue avec Jérôme Rotten, avec Capitaine Larquet, avec Jean-Louis Tour. À partir de 19h, nous allons revenir sur un match de légende. C'est le France-Real Madrid, Paris Saint-Germain-Real Madrid, pardon, de 93.
Exactement, ce quart de finale de la Coupe de l'UEFA. Antoine Comboiré, qui a marqué le but libérateur, sera avec nous.
Tu sais que Jean-Louis, pendant la publicité, là, j'étais en train de regarder la composition d'équipe d'Arsenal d'hier.
Ouais, bah, c'est ce que je te dis.
Non mais c'est fou.
Je vais la donner.
Il y a plus de la moitié des joueurs que je connais pas.
Bah c'est ça, c'est pour ça. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Leno dans les buts, Bellerin, Mustafi, Marie, Tierney en défense, Willock, Guendouzi, Chaka, Saka, Aubameyang, Nketiah. Voilà, ça Nketiah, c'est le 11 d'Arsenal.
Nketiah, Saka, Willock, Tierney, Marie Villard. C'est qui cela?
Oui, mais c'est des jeunes.
Voilà, ben t'as compris. Alors, t'as ta réponse.
Autre jeune, Adrien Aiguin, journal moyen.
Bonsoir. À la une du journal moyen de Team Duga aujourd'hui sur RMC. On parle pointe de vitesse avec notre expert Jérôme Rotten. Il y a des matchs à la télé en ce moment. Vous avez vu? Ça fait plaisir de retrouver tous nos copains commentateurs. On a retrouvé Eric très pertinent. On a retrouvé aussi nos amis de Bein Sport. Voilà, ça fait plaisir de retrouver tout le monde quand même. Ça nous manquait. Jean-Michel, oui, bien sûr.
Alexandre Rival, le football.
Le penalty de Messi, oui. Et puis peut-être on est proche peut-être en Italie d'un Cristiano Gate. Ça sera proche. Il y a la famille qui s'en mêle, alors ça y est, c'est parti. C'est le 340e journal moyen de l'histoire de Team Duga sur RMC.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Team Duga.
Adrien Aiguin.
Tout de suite, direction. Ah, c'est ta chanson préférée, Jean-Louis, je sais.
Bien sûr.
L'Allemagne, un nouveau record est tombé en Allemagne, les amis, en Bundesliga. Vous allez me dire si ça vous impressionne ou pas, parce que moi je n'y connais rien. Depuis la saison 2013-2014, dans ce championnat, on peut mesurer la vitesse de course des joueurs. Le record a été battu, par un joueur du Bayern, Alphonso Davies, qui est latéral gauche canadien, flashé pendant le match face au Werder de Brême à 36,51 km/h. Tout le monde dit que c'est énorme, tout le monde dit que ça va très 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 vite. C'est pas la vitesse moyenne de course, hein, c'est pointe de vitesse. Au moment où il a été le plus rapide, donc 36,51 km/h. Ça vous paraît beaucoup, les sportifs de haut niveau, Duga, Jérôme, capitaine.
Vous
n'avez jamais essayé, vous, de vous comparer, de vous mesurer?
Si, mesuré, mais sous la douche. Bon,
c'est différent. Ouais,
c'est pas pareil.
Voilà.
Avec Makelele?
Non, quand même. Courageux, mais pas téméraire.
Pour comparer, par exemple, selon la FIFA, vous savez, l'accélération de dingue de Mbappé face à l'Argentine, Coupe du Monde 2018.
38, non?
Alors, effectivement, il y a eu un fantasme autour de cette vitesse. Ça a été régulé, flashé par la FIFA officiellement à 32,40 km/h.
Ah ouais,
c'est tout. C'est tout. En fait, il court pas vite, Kylian Mbappé. Et juste pour comparer avec le meilleur du monde de l'histoire, Usain Bolt, à votre avis, pointe de vitesse maximale, son record?
Ah oui,
combien?
42.
42 pour Duga?
Ouais.
Ah ben non,
hein? 41.
41. Usain Bolt, lors de son record du monde à Berlin en 2009.
Franchement, ça doit pas être vers 38, un truc comme ça, 38.
Non, parce que le départ, quand tu fais 9-2. 9-2, le départ, il doit...
On parle du pic, hein?
Oui, le pic. Ouais,
le pic,
40.
Alors, le pic se passe entre le
pic 45, allez.
Entre 60, entre 60 et 80 mètres. C'est là le pic.
On va donner la réponse.
Le pic. 44,72 km/h. Le mec, il est en bagnole, en fait. 45. Il est en voiture, mais avec ses jambes.
Et il est flashé.
Bravo, Usain. Il a été moins bon au foot après. Il court vite, mais au foot, il annule.
Jérôme, t'es quoi ta pointe, toi?
Il a le cul qu'il avait, fils. Il a le caravane et toute la famille à l'intérieur. Il a un fion, fils.
Il courait sur les talons.
Il a le cul de Kim Kardashian. Qu'est-ce qu'il passe?
C'est
beaucoup.
Alors, on quitte l'Allemagne pour le Royaume-Uni.
Pas la peine.
Alors, à la base, c'est plus sérieux. Vous avez suivi l'histoire Marcus Rashford, attaquant anglais de Manchester United, qui a fait céder le Premier ministre britannique Boris Johnson. Rashford a obtenu du gouvernement le prolongement des repas gratuits pour les écoliers pauvres durant les vacances d'été au Royaume-Uni. Il devient un héros national là-bas. Tous les politiques parlent de lui, forcément. Le ministre de la Santé, Matt Hancock, est invité sur Sky News. Il s'exprime sur Marcus Rashford. Il raconte même la discussion téléphonique avec le Premier ministre. On a bien dit Marcus Rashford, monsieur le ministre de la Santé.
Well, I'll tell you what happened. Prime Minister talked to Daniel Rashford.
Daniel Rashford. Bon, Danny, petite saucisse, c'est beaucoup repris en Grande-Bretagne parce que tout le monde. Non, mais ce qui est exceptionnel, ce sont les excuses et la justification de ce ministre de la Santé. Il a été obligé de s'expliquer. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ah oui, moi j'adore.
Ah.
C'est pour ça que
ça ne parle qu'à Jean-Louis Tour autour de la table.
Ouais, bah oui, c'est quoi ça?
Je suis un peu trop jeune.
Alors, explication du ministre de la Santé en Grande-Bretagne suite à cette petite boulette, c'est pas très grave, Daniel Rashford. Il dit: mon fils de 7 ans écoute et regarde Harry Potter. Il lit Harry Potter avec avidité, y compris à 5h30 ce matin, lorsque je me suis levé pour aller travailler. Il était déjà en train de regarder Harry Potter. Daniel était sans doute sorti en référence à Daniel Radcliffe, l'acteur principal de la saga Harry Potter.
C'est nul.
Voilà la justification. Pour lui, il avait Daniel dans la tête.
C'était à peu plutôt. Il a regardé l'émission transversale, il a vu Daniel Riolo, donc il a dit Daniel Rashford.
Il a écouté l'after avec Jérôme.
Il y a Jean-Michel qui allait avoir un mot gentil pour un ministre actuel, je pense.
Non, il est du niveau de l'autre ministre, à peu près, de la Santé.
De Olivier Véran. Ok, voilà, c'est fait. Sans transition.
Bon, il vient d'en prendre une, Olivier Véran.
Il n'a rien demandé, celui-là.
Aussi bien, il écoute un peu de foot à la radio pour se détendre. Et puis, au moins, on va parler d'autre chose. Il se prend Jean-Michel Larquet en travers. Sans transition.
Monsieur Masque. Wow,
le foot reprend.
C'est pas lui, les masques. Enfin,
bon, le foot reprend. On a retrouvé du foot à la télé, ça fait plaisir. Sur toutes les chaînes, on a retrouvé nos consultants adorés. Sur RMC Sport 1, Manchester City Arsenal. Sur le premier but de City, c'est Sterling qui marque. Vous avez vu la boulette de David Luiz.
Oui.
Voilà, bon, l'analyse premium d'Eric Dimeco.
Ouais, quelle grosse erreur.
Merci Eric, c'était intéressant. Ça, c'est la plus-value d'Eric Dimeco. Et donc, côté Arsenal, prendre un but comme ça juste avant la mi-temps, Eric, analyse.
Mais c'est cruel pour les Gunners. Juste avant la mi-temps.
Mais oui, c'est toujours cruel juste avant la mi-temps. Merci Eric, c'était intéressant.
Quel salaud.
Il va m'insulter, je le connais par cœur.
Tu l'as mérité en plus.
On a le temps pour la Liga. Ça, c'est le chouchou de Jean-Michel Larquet. La Liga s'est diffusée chez nos copains de Beansport. On a retrouvé Omar Da Fonseca. Je crois qu'Omar était en manque de Lionel Messi parce qu'il est avec Benjamin Da Silva, son coéquipier, en commentaire. Messi vient de marquer un pénalty. Il n'y a rien d'exceptionnel. Écoutez Omar Da Fonseca, sa mesure légendaire sur un ralenti du pénalty de Messi.
Regardez où il a mis ça. Est-ce que vous avez vu? Regardez où il a mis. Petit pont, petit filet. Petit filet. Mais petit filet derrière le poteau. C'est presque improbable la direction.
Ah oui, ça y est.
Il y a Da Silva, il se fout de sa gueule à côté.
Vous ne vous sentez pas qu'il vous offre à vous quelque chose? C'est un faiseur de rêves, c'est un facilitateur d'émotions.
On parle d'un pénalty marqué dans le petit filet.
La dernière fois, Omar Da Fonseca, il cherchait un milieu de terrain diplomatique. J'ai essayé de chercher.
C'est un cocktail, surtout, il le met dans le petit filet derrière le poteau.
Oui.
Devant le poteau, c'est pas possible.
Et s'il enroule le poteau, tellement c'est bien brossé. Et
le ballon, mais c'est un faiseur de rêves.
D'accord, très bien. Merci Adrien.
À demain. Les copains, chez Jérôme.
Merci il le fait exprès, Omar, il commente pas comme ça, il fait exprès d'en rajouter, il fait des formules, des mots, tout, mais c'est sûr.
Il en joue.
C'est sûr.
Il joue avec Jean-Michel Larquet quand il commente.
C'est comme Jeannot, il joue aussi, c'est pas possible de commenter comme ça.
Si, Jeannot, il est comme ça dans la vie, bien sûr.
D'accord.
Bien sûr, quand il dit bonjour, c'est pareil.
Tu dis passe-moi la selle, à table, c'est pareil.
On embrasse Jeannot, bien sûr. Jeannot qui aura droit à un nouveau passage demain dans Rotten Régal, j'imagine.
Pour faire plaisir à tout le monde, oui.
Parce qu'après, hier, j'étais obligé d'appeler Jérôme et tout. Enfin bon,
bien sûr.
Jérôme, à demain. Repose-toi bien, merci. Sois prêt parce que Captain Larguet est en forme.
Les jeunes, ils se cassent à la mi-temps.
Il coûte plus cher que toi, Captain. Voilà, c'est ça la différence.
Excuse-moi, je fais 2 heures d'after avec Daniel Riolo ce soir. Donc
c'est vrai que c'est
fatiguant. C'est pas facile.
On te retrouve ce soir dans l'after à 22h et demain 18h dans Rotten Régal. Dans un instant, PSG Real 93. On refait ce match de légende pour les supporters du PSG avec Antoine Comboiré en direct. À tout de suite.
RMC 18h-20h. Tim Duga. RMC 18h-20h. Tim Duga. Jean-Louis Tour. Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h03, nous continuons Team Duga. Nous sommes dans la deuxième heure, c'est jusqu'à 20h sur RMC. Vous le savez, c'est le moment de parler d'un match de légende. Jean-Louis Tour est toujours avec nous. Capitaine Larquet également, capitaine.
Oui, je suis là.
T'as pas tout donné dans la première heure parce que t'avais du jus là.
Hein. Non, je suis bien là.
Il est détendu, il est en famille là. Ouais, oui, il est chez lui au soleil là.
J'ai les 90 minutes plus la prolongation.
Magnifique. Bon, très bien. On accueille Laure Lepailleur qui est avec nous. Bonsoir Laure.
Bonsoir Duga, bonsoir à tous.
Bienvenue Laure, nous accueillons également Julien Cazard.
Oui, bonsoir à tous et bonsoir, toutes et à tous. En revanche, je vais me briefer un peu parce que je ne vois pas de quel match vous parlez, mais je suis vraiment. J'ai hâte de savoir ce que c'est.
Très bien. Et Fred Hermel, également. Bonsoir Fred.
Exactement aussi, ouais, on peut le dire. Olachikos et Olachika, parce que je suis ravi de retrouver Laure.
Alors Fred, tu vas pouvoir nous parler du Real de l'époque. C'était un match particulier pour toi aussi, il me semble.
C'est mon premier.
Voilà.
À Madrid, c'est mon premier en tant que correspondant sportif.
T'as perdu ta virginité. C'est à ce moment-là.
Voilà, exactement. D'accord. C'était à Madrid, le 3-1 à Bernabéu. J'avais quel âge ?
Tu t'es bien fait déchirer pour ta première. Hein,
mais tu sais, à l'époque, j'étais neutre à l'époque. C'est après que ça a pris, ça a changé. Ouais.
Oui, t'étais pas encore directeur sportif du club.
Non, directeur de com, exactement.
Directeur de com, pardon.
Attends, mais si tu veux copier Riolo.
Non, justement, Fred, il voulait te valoriser davantage.
Oui, pardon.
À Marseille, on dirait que tu es head of communication.
Voilà. Oh yeah, great, cool. Alors, à l'époque, j'étais correspondant de François, mais ça a été mon premier grand match. J'avais exactement 23 ans. Voilà. J'étais puceau, quoi, on peut le dire.
Ben c'est ça. Alors après, tu vas nous parler du.
Ça a bien changé.
Ah oui, il s'est bien rattrapé, le Fredo.
Alors, journalisme sportif, je voulais dire.
Après, tu vas pouvoir nous parler du Real de cette époque et puis on dira un mot également sur Real Séville ce soir en 2020. Mais d'abord,
Valence même.
Valence, pardon. Oui.
Je t'ai troublé.
Real Valence.
Non, elle a bien préparé son émission.
Lapsus, ça arrive.
Non, parce qu'on a fait Séville 82. Et
non, parce qu'il y a un Barça Séville. Bon, bref, allez, on s'en fiche.
C'est même un Séville Barça.
Tu seras pas avec le ministre britannique et toi ?
Non, rien à voir. Mais j'ai des bonnes excuses aussi, c'est vrai. Alors, tout de suite, on se replonge donc dans cette soirée de 93, donc quart de finale de la Coupe de l'UEFA, PSG Real.
Oui, là. On retraite, c'est bien joué. Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Mitchell qui a tiré ce coup franc avec une tête et but. C'est pas possible.
Et ben voilà le quatrième but.
Ouais, et devant le but.
Sampoiré
aussi, les mots tête et tête. À quel match. C'est extraordinaire. C'est Sampoiré qui vient mettre la tête. Sampoiré le sauveur.
C'est fini.
Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Antoine Campoiré, Michel Denisot, ils sont tous heureux.
Voilà donc les commentaires à l'époque. Thierry Gilardi, Charles Bietri, Michel Platini qui commentaient cette rencontre. Et Antoine Campoiré est avec nous en direct dans Team Duga. Bonsoir Antoine.
Bonsoir.
Salut Antoine.
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Bonsoir.
Merci d'être là. Quand tu écoutes ces commentaires-là, ça te fait encore quelque chose ? Ça t'hérisse les poils, Antoine ?
Ah, j'en ai des frissons, mais c'est parce que surtout peut-être que ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas entendus. Et je ne me rendais pas compte que c'était aussi vibrant, aussi poignant. Et puis surtout donc, d'entendre Thierry Gilardi, donc, qui est plus avec nous. Hein, voilà. Et puis surtout donc, Michel, Charles, ça. Forcément, donc ça donne des frissons. Tu retraces le chemin parcouru. Et
c'est ton plus grand souvenir. C'est ton plus grand souvenir de footballeur.
Ben tu sais, Duga, moi j'ai dit, je n'ai jamais joué en équipe de France, tu vois. Et j'ai dit, c'est l'équivalent de ma Coupe du Monde à moi. J'ai marqué un but qui reste encore dans les mémoires. C'est vrai que souvent, je crois des gens qui me parlent souvent de ce match. quand j'entends les gens, j'ai l'impression que le Parc des Princes à l'époque, il devait faire 300 000 places.
Oui, alors je suis d'accord avec toi. Parce que à chaque fois, je croise un mec qui me dit qu'il y était. Moi, au moins, j'ai mon billet, j'ai mon ticket, j'ai la preuve. Mais c'est vrai que t'as l'impression que tout le monde était à ce match, c'est improbable.
Tout le monde était là, ouais, c'est ça. Donc, Oui, c'est des émotions énormes et puis des souvenirs fantastiques. Et comme je l'ai dit, c'est mon plus gros trophée. Voilà, j'ai eu la chance de marquer. Je dis souvent à mes joueurs, moi qui suis entraîneur aujourd'hui, je dis mais mince, bien sûr que gagner de l'argent c'est une chose, mais essayer de marquer donc les esprits des gens. Là, vous pouvez marquer un but en finale de la Coupe du Monde. Hein. Zizou, il en a marqué deux. On s'en souvient encore. Hein. Donc voilà, et moi j'ai eu la chance de marquer un but, et même si c'était qu'un quart de finale, tu avais l'impression que c'était une finale de Coupe d'Europe. Ah ouais. Voilà.
Alors Antoine, on va revenir en détail sur cette soirée, pour vous, donc si particulière. Il y a des éléments de contexte à avoir en tête. Déjà, vous, sur la saison, vous n'êtes pas titulaire. C'est la paire Ricardo Roche qui a les faveurs d'Arthur Georges.
Oui, puis c'est indiscutable, parce que Alain est en pleine bourre. Mon ami Alain, donc voilà, il marche très fort. Et puis à côté, il y a Ricardo, c'est une belle... complémentarité, un duo donc qui se fait fort. Et puis moi je suis donc le troisième, je suis derrière, donc à chaque fois qu'il y a un blessé, un suspendu, et donc en l'occurrence là, sur ce match-là, Alain était suspendu, il avait pris un carton rouge
à la dernière minute.
C'est ça, dernière minute, comme quoi il y a c'est des coups du sort, quoi. Il y a un bon Dieu qui est là. Moi je vis une saison un peu compliquée, même si attention, hein, je joue, j'ai la chance de jouer beaucoup, et puis surtout, donc on est en quart de finale, j'ai pas à me plaindre.
Mais t'avais déjà fait le coup à Anderlecht, voilà, c'est ce dans que un match dire. Où ça sentait vraiment pas bon. C'était
ça,
un match.
Le tour précédent.
Franchement, Anderlecht, c'était un match piège.
Le tour précédent contre Anderlecht, juste il y a 0-0 au parc, ouais. Et vous allez là-bas, vous êtes mené 1-0, et effectivement, il y a ce corner, Antoine, à quoi, un quart d'heure de la fin?
Et puis surtout, je suis remplaçant, donc voilà.
Oui.
Je suis remplaçant, et Jean-Luc Sassu s'est blessé. Voilà, si mes souvenirs sont bons, il sort et je dois rentrer à 20 minutes avant la fin du match. Et là, il y a un corner frappé encore par Valdo. Et moi, je mets une tête au deuxième poteau. Alors celle-là, je peux te dire que je peux la tenter 1 million de fois. C'est le premier poteau. Je suis au premier poteau. Il y a un défenseur qui est donc sur sa ligne au deuxième poteau. Ouais. Et moi, du premier poteau, je la mets donc sur la lucarne opposée. Donc,
pour et ça lobe le défenseur, c'est incroyable.
Bien joué.
Un coup, comment on dit ça, un coup de.
Le petit trou de souris.
Non, dans ces cas-là, il faut dire que tout était calculé. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
Non, j'ai quand même donc, la lucidité de dire que c'était une période où là, tout me souriait. Même si c'était des fois pas facile, mais j'ai une période. Je crois que même dans la même période, on va jouer en Coupe de France à Monaco. On gagne 1-0, on se qualifie. Je fais une frappe, mais pourrie de 30 mètres. Elle rebondit 30 fois, donc elle rentre dans les buts. Et voilà, donc c'était une période assez heureuse pour moi.
Donc tu as fait ta carrière que sur des coups foireux, quoi, c'est ça?
Voilà, sur des coups de.
Ah. En revanche, Antoine, on vous perd un tout petit peu là, avec la communication. Bah, si plus, vous pouvez vous remettre à l'endroit du début, c'était parfait.
T'es en vacances, t'es où là? T'es à Noisy-le-Roi? T'es à Saint-Nom?
Je suis dans les Yvelines.
Il est à Saint-Nom.
Là où c'est quand même, j'allais dire, c'est facétieux pour utiliser un mot de jeune. Un match, c'est que avant le but. Je sais pas si tu te souviens, Antoine.
Anderlecht, tu parles là.
Non, je parle de Real Madrid. Okay. Il y a une action où, franchement, ça pourrait presque être sifflé pénalty. Tu fais un tacle un peu limite sur un Espagnol. Tu vois ou pas?
Mais
cette action?
J'arrive.
Oui. Il y a cette action qui est litigieuse. Il peut siffler pénalty et donc c'est mort. Mais même putain, parce que donc, on fait l'histoire. Le but vient de la rage, parce que sur le but qu'on encaisse, nous on mène bien sûr 3-0. Et on encaisse ce but dans les arrêts de jeu 3-1, donc ça remet tout donc à égalité. C'est moi je fais la lutte avec Michel et je suis battu donc
exactement,
donc, dans le duel aérien. Et je me sens fautif. Et que c'est Zamorano qui marque.
Alors, on va y revenir en détail, hein. Vous inquiétez pas.
J'ai un peu brûlé les étapes.
Exactement, mais ah, c'est ça mon fait côté... partie du charme de Julien, effectivement. Il va plus vite que la musique. Ah, oui. Mais c'est pas grave. On va revenir en détail sur cette rencontre en vous donnant déjà en rappelant les compos d'équipe. Et surtout, celle du PSG. Fred nous parlera du Real de l'époque également. Bernard Lama dans les buts. Là, c'est le Bernard.
Une défense en bois.
Jean-Luc Sassus, Ricardo, Comboiré, Colter, voilà. Le Gouen, Guérin au milieu, Valdo, Amara Simba, Wea, Ginola. C'est quand même.
Fait la défense. Ouais. Jean-Luc Sassus, c'est un ancien attaquant qui allait très vite quand il jouait défenseur. C'est bien ça, Antoine, hein?
Ah, c'est ça. Un reconverti, un ancien ailier droit.
Voilà. Ouais, Bruno Germain va rentrer un quart d'heure de la fin. Daniel Bravo également. Et Fred, comme élément de contexte, parle-nous un peu du Real de cette époque.
Alors, on était dans un réel un peu en fin de cycle, parce que c'était vraiment la toute fin de ce qui restait de la fameuse.
Quinta,
je suis désolé. Fameuse Quinta del Buitre. Parce que de cette Quinta del Buitre, il n'y avait plus que Mitchell, que Butragueño et que Sanchez. Il a d'arriver. Super.
Non, mais c'était pas la Quinta. Il y avait Vasquez, me semble-t-il.
Oui,
la Quinta del Buitre, c'est les 5 joueurs formés au club qui font la réussite du Real dans les années 80. Et Hierro est là, il fait pas partie de la Quinta.
Mais Hierro, il fait pas partie de la Quinta.
Non, c'est pour ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le Real Madrid à l'époque était en phase de reconstruction. Et en plus, il y avait un élément qui faisait pas partie de la Quinta del Buitre, mais qui a été un joueur très important, qui était Hugo Sanchez. Mais alors là, et bien entendu, je ne vais pas attaquer un ancien entraîneur du Racing Club de Lens. L'équipe, elle tenait quand même pas mal la route.
Il y a Pozinesco quand même. Hein.
Avec Puyol, Shendo, Lasalle, Corta, Sanchez, Ramis, Luis Enrique. Rappelez Luis Enrique, ouais. L'entraîneur qui à l'époque jouait au Real Madrid. Mitchell, Zamorano, Luis Milla et Dubovski, un joueur slovène qui on se souvient pas trop. Et l'entraîneur était Benito Floro, qui après a pas vraiment fait beaucoup de grande carrière, qui venait d'Albacete et qui était un intellectuel du football. Mais attendez, ce Real là se tenait extrêmement bien. Hein. Loin de moi l'idée
minimiser notre super
l'exploit parce que à Madrid on s'en souvient encore. Moi je débutais comme correspondant à l'époque et ça avait été le but d'Antoine Camboire avait été vraiment un événement colossal à Madrid, quoi, parce que après le 3-1 de l'aller, ils étaient plutôt confiants les madrilènes.
Mais le PSG donc va
un 3-1 bien payé à l'aller, moi je trouve. Hein.
Pour le Real ?
Ouais, parce exactement. Que franchement, le PSG, il a manqué d'efficacité.
Il devait avoir pénalty sur Ginola.
Ouais, et puis même, Daniel Bravo, il rate une tête un peu propre du but. Et derrière, on prend un contre. Franchement, c'était sévère.
À l'époque, Ginola, le soir du match, les Espagnols, la presse espagnole commence à l'appeler El Magnifico. Et le Real a essayé de l'engager après le match aller.
Alors on me signale que le cinquième s'appelait
d'après quoi pour la saison d'après bien entendu. Oui pardon.
Ça m'échappe. Pardesa? Le cinquième s'appelait Pedraza.
Non, Pardesa.
Pardesa. Miguel Pardesa.
Oui, alors Jean-Laurent Esténou, quand tu m'envoies un truc, essaie de l'écrire normalement parce que
ça. Mec... Jean-Laurent Esténou.
Non, c'est
très bien.
Un jeune d'ici qui m'a dit Pedraza, c'est le cinquième. Non, c'est
non Pardesa. Miguel Pardesa.
En même temps, c'est l'heure de l'apéro chez toi.
Non mais n'hésite pas, Captain, à nous lire tous les textos que tu reçois. C'est très intéressant.
Alors,
c'est incroyable. J'apporte des précisions.
Oui, mais à moitié.
Enfin bon, moi,
la précision.
C'est des précisions fausses, mais c'est des précisions.
Tu vois, cette jeunesse qui respecte rien, Jean-Michel.
Non, mais respectons notre avis.
Jean-Louis, il a beaucoup changé, tu sais, Fred.
Bon, allez, avançons.
Depuis qu'il va présenter une grande émission,
avançons sur le match. Donc, Wea ouvre le score à la 33e sur corner au premier poteau. Antoine, vous vous souvenez de ce moment?
Oui, corner donc sur la gauche. Donc voilà, et corner de Baldo, frappé au premier poteau et Georges Weah qui survient, donc voilà, il saute plus haut que tout le monde et puis il a mis au premier poteau catapulte de ballon donc sous la lucarne.
Ça c'était j'ai le souvenir les corners d'Arthur Georges, c'était le gros truc quoi. Souvent Baldo, au premier poteau aussi, il y en a
Valdo sur ce match. Georges qui tient, on en parle pas beaucoup mais Valdo sur ce match, il est énorme, il est sur tous les buts, il est stratosphérique, c'est un monstre.
Valdo
en
est.
En toute objectivité.
J'ai appelé mon chien Valdo après, je te jure que c'est vrai.
Ah oui, très bien. Pourquoi en plus, il va se passer pas mal de temps. Jusqu'à la 81e, donc il n'y a pas de but. Mais c'est quoi la physionomie du match à l'époque, Antoine?
Nous, on pousse parce qu'on est persuadé qu'on est capable de faire la différence. Il faut marquer le deuxième but pour justement donc, se qualifier. On avait perdu 3-1 à l'aller. Et donc, on a des occasions, on frappe, je crois, une fois sur la barre, on a le sentiment de dominer ce match-là, et qu'à la fin, on va être récompensé de nos efforts, quoi. Donc, on pousse, et vraiment, d'ailleurs, si vous voyez l'équipe de départ, c'est la première fois qu'Arthur Georges mettait, donc, Simba et Georges Weah, Ginola, donc, en attaque, quoi. Il avait déjà mis un trio d'attaque aussi fort, donc.
Oui, avec Valdo en plus, Ouais, c'est sûr que c'est très offensif, et vient donc le chef-d'œuvre. Plus encore que le quatrième qui va arriver, mais le but de David Ginola.
L'action est dingue.
L'action est magnifique. Donc il y a une remise de Wea en hauteur, remise de la tête de Daniel Bravo et demi-volée de David Ginola.
C'est encore mieux. Il pique la balle pour la lever de l'extérieur du pied, Georges Wea.
Oui.
C'est incroyable ce qu'il fait. Et Daniel Bravo remet sur Ginola.
Et là, c'est l'explosion de la qualification, en plus, Antoine. À ce moment-là, c'est le but qui qualifie le PSG.
Ben, tout est réuni, parce que vous avez dit, donc, la conception de ce but, elle est exceptionnelle. Collectivement, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Donc, voilà, on n'avait jamais aussi bien joué, puis on n'avait jamais aussi marqué un aussi beau but, quoi. Et en plus, c'est le but qui nous donne la qualification, donc le stade explose, et puis nous, on est conscient, persuadé que ça y est, là, on a la qualification en poche.
Deuxième explosion de joie en plus, 6 minutes plus tard, 87e, le but de Valdo sur un contre très bien emmené par Ginola et Wea. La fin de frappe de Valdo qui est quand même magnifique.
Normalement, tu fais ça en poussin, ce qui fait se tourner là. Je pense que tu te fais engueuler. Jean-Michel, t'en penses quoi?
Oui.
De toute façon, on t'y tourne, Ricardo Rocha.
C'était Rocha, je crois.
Ouais, Ricardo Rocha, ouais.
Oui, mais après.
Non, arrêtez.
Ouais, c'est abusé.
Arrêtez avec les poussins.
Ouais, quand t'es défenseur, t'as un sentiment de honte, hein, quand même, de te faire éliminer aussi facilement, quand même. Tu te fais avoir. Alors, Valdo, il joue super bien le coup, hein. Mais c'est vrai que quand t'es défenseur, t'es un petit peu honteux de te faire avoir de cette façon.
Disons que la fin t'es belle. Frappe, oui. Et la fin t'es très belle, mais derrière, il retouche le ballon deux fois. C'est-à-dire que l'autre, il s'était vraiment tourné. Et... Donc, c'était magnifique. Donc, but de Valdo, 3-0. Là, normalement, tout est bon. Sauf que vient donc ce coup franc de Mitchell à la 93e minute. Et là, Antoine, donc vous perdez le duel avec Zamorano.
Ouais, c'est ça.
Avec Mitchell sur la remise de la tête.
Voilà.
C'est Mitchell qui me bat donc dans le jeu.
Non, tu es battu de la tête par Mitchell, mais c'est pas possible.
Si, oui, mais malheureusement, si. Malheureusement, c'est au deuxième poteau, donc j'en occupe un peu trop vite et donc je saute. Avant lui, donc quand je redescends, c'est lui qui est donc en plein expansion et donc il arrive à rabattre le ballon au premier poteau. Il y a Zamorano qui vient, donc un petit pointu, je crois, et le ballon passe entre les jambes de Bernard Lamas.
Eh, Bernard, il n'est pas irréprochable sur ce truc-là, non?
Ça, c'est marrant, toi, pourtant.
Il est sur son gros cul.
Ah, je savais bien qu'il y avait un truc qui gênait, je savais bien.
Lamas qui a été énorme à Anderlecht au tour précédent. Il y a un partout à la fin, mais il sort à peu
près. Mais en vrai, le match le plus âpre, c'est Anderlecht. C'est celui où finalement, on passe le plus à l'arrache, hein, parce qu'on a l'impression qu'on n'en sortirait jamais de ce match.
T'avais beaucoup souffert, hein.
Moi, j'ai souffert. Mais oui, monsieur, moi, j'ai vécu des trucs terribles.
J'avais beaucoup souffert.
Ensuite, donc à ce moment-là, 3-1 prolongation. Tout le monde se prépare à la prolongation. J'imagine que vous avez ça dans un coin de la tête quand même. Mais on est quoi, à la 96e?
Mais plus.
97
même. Ouais.
David Ginola va chercher un coup franc. On peut le dire comme ça, Antoine. Parce qu'il est malin, Ginola, sur le coup.
Il n'y a pas grand-chose,
Il n'y a pas grand-chose et il est assez doucement là, dans toute sa splendeur. À chaque fois, c'est Neymar aujourd'hui, quoi. Dès que tu le touches, il est tombé, quoi.
Ah, ça y est, il va apprécier.
Non, mais c'est vrai que lui, Ginola, c'est parce que il perd la balle au match aller à la fin, le contre là où Roche il se sacrifie. C'est parce que Ginola il a fait un peu, il en rajoute trop et il perd une balle et encore une
fois il a fait un crime contre l'équipe de France.
Il a fait un crime contre l'équipe. Mais sauf qu'il a eu raison parce que c'est grâce à ça qu'Antoine a joué.
Oui, bah c'est vrai, c'est lié. Et donc ce coup franc et cette tête, Antoine, racontez-nous ce moment.
Non, mais moi j'ai l'esprit revanchard et c'est vrai que quand Valdo s'apprête à frapper le coup franc, j'ai qu'une idée en tête, c'est d'essayer donc en tout cas de toucher le ballon. Et c'est vrai que sur l'écran on ne voit pas parce que moi je pars de très loin. Je suis donc pratiquement, je suis en dehors de la surface de réparation, mais je suis à 20 mètres. Et donc quand Valdo décide de frapper, donc rentrant le coup franc, il la met donc justement donc pratiquement au point de pénalty dans cette zone-là. Et moi, j'arrive voilà, comme un boulet de canon. Voilà, je ne suis pas sur l'écran. J'arrive comme un malade. Et puis, je saute. Je mets extension. Et puis, je frappe. Et puis, j'ai de la chance de la mettre au petit filet. Donc, sur le côté gauche. Il y a beaucoup de réussite aussi. Mais voilà. Donc, je l'explique par le fait que j'avais envie de me reprendre. J'avais envie de m'excuser auprès de mes copains. Parce que donc, j'avais été fautif sur le put qu'on avait empêché.
Il y a un côté Thuram qu'on a connu en demi-finale de Coupe du Monde.
Un canaque blessé, attention. Attention.
Antoine, quand on avait eu David, on avait parlé du sentiment de la fin de match. Et je veux savoir si toi, tu as ressenti la même chose. Nous, dans les tribunes, enfin moi, j'étais à Auteuil, donc autant te dire qu'on comprenait plus ce qui nous arrivait. On avait l'impression qu'on ne savait plus si on était en prolongation déjà. Enfin, c'était très lunaire la fin de match. On ne savait pas si on avait déjà démarré la prolongation ou si on était encore dans le match. C'était tellement long.
T'étais déjà bourré, c'est bon. Tu savais pas.
J'étais bourré, d'accord. Mais on pouvait boire de l'alcool.
T'as ta réponse.
Non, mais c'est vrai que pour nous, en tout cas, on était ce dont on s'est dit donc sur le terrain quand on prend le but, on s'est dit si on va en prolongation on est mort, parce que nous on a fait un énorme match, mais on a eu le sentiment d'avoir tout donné et nous dire que physiquement on était vraiment mais à la limite on était cuit, et si on partait en prolongation, nous on n'existait pas, parce que techniquement donc on sentait donc le Real reprendre le dessus, meilleur que nous, donc voilà, plus tranquille, et eux j'avais joué un football à l'économie quoi, en gérant. Alors que nous, on avait jeté toutes nos forces dans la bataille pour essayer donc de vite nous qualifier et puis donc rentrer à la maison et ne pas donc jouer à la prolongation. Et c'est vrai qu'on avait ça en tête. Il fallait surtout pas aller en prolongation. Donc peut-être que ça a joué beaucoup. Donc voilà, donc dans cette fin de match. Quoi.
En quoi ce but a eu un impact sur la suite de la saison? Est-ce que pour le coup, il y avait beaucoup plus de lumière sur vous? On allait plus vous chercher encore sur ce statut de remplaçant derrière les deux autres dont on a parlé tout à l'heure? Ou est-ce que finalement, bon bah c'est comme ça, c'est l'histoire d'une action et ça, c'est pas aller plus loin?
Non, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est que les big stars de l'époque, c'est bien sûr Georges Weah, Ginola, on a Baldo, donc bien sûr on a Ricardo, on a Bernard Lama qui est en équipe de France, ils sont tous internationaux et moi je suis le seul à n'avoir jamais été en équipe de France, et c'est un truc qui a permis à ce que donc, je sois un peu plus en lumière, voilà, mais ça a été un moment donc dans une carrière, mais bizarrement donc c'est un but qui a marqué aussi mon passage au PSG, parce qu'on a le sentiment qu'on avait gagné quelque chose, mais c'était qu'un quart de finale. Alors bien sûr que après, comme on dit, on s'est viandé à prendre demi finale contre la Juventus, je crois.
Ouais,
donc exactement. Voilà, on n'est pas passé le tour suivant, mais ce but ouais, finalement cette qualification marque les esprits, mais en tout cas. Ça nous a pas permis donc d'aller chercher une Coupe d'Europe, parce que je crois que c'était le record, je crois qu'on a essayé 4 ou 5 demi-finales, je crois,
de filer,
je crois.
Ouais. Mais attends,
sans jamais atteindre la finale, donc voilà, mais ça marque les esprits tout simplement, mais pour moi donc c'est un moment où on a le sentiment que ce jour-là je suis en lumière, puis après basta, on est passé à autre chose quoi.
Ouais, ouais. Très bien. Bon bah voilà pour cette rencontre.
Truc notable mais marrant à la fin du match, quand il y a le but d'Antoine, tu t'en rappelles souvent, sûrement. Arthur Georges, il bouge pas de son banc. Il est complètement cuit ouais. Carbo. Il lève même pas les bras. Hein. Il est sur son banc.
Gros guy quoi.
Ah ouais, non mais il est sous sa moustache. Il est caché sous sa moustache.
Bon Antoine, vous.
Mais il y en a qui en rient parce qu'ils ont dit soit donc il était gros guy, soit donc ça lui a pas fait plaisir. Les copains moi sont vrais quoi. En disant ça. Je plaisante. Voilà.
Bon.
Voilà.
Et Antoine, aujourd'hui, comment ça se passe? Vous êtes toujours à la recherche d'un nouveau défi sur un banc?
Oui, mais je sais que ça va être un peu plus, certainement beaucoup plus compliqué parce que les clubs sont en grande difficulté avec ce qu'on vient de vivre. Donc voilà, aujourd'hui, je ne vois pas donc des clubs donner des invités de départ à des entraîneurs, puis après, donc, on les cherche à d'autres. Donc je m'attends à ce que donc, ce soit une année pour en tout cas retrouver un poste plus compliqué. Mais moi, sur le plan personnel, ça me permet surtout donc, voilà, de pouvoir profiter de la famille, profiter du bon temps, et puis aller jouer un peu au golf, ma passion.
Ah ouais, mais
pas du gars.
Un peu, tous les jours. Quoi.
Non, tous les jours. Antoine, tu ne peux pas encore progresser, c'est pas possible, tu es déjà le plus fort.
Non, justement, quand tu joues trop, après, tu ne sais plus jouer, tu ne sais plus comment monter la canne.
Ah, c'est ça, ouais. Du gars. Voilà.
Couché, amateur. Ah ben,
c'est ça, t'as dû trop jouer au foot, du gars. À la fin, tu savais plus comment faire. T'es emmerdé avec ça.
Alors, Antoine, on profite de votre présence également. Il y a eu toute une vague de soutien de différents sportifs sur la cause du racisme ces derniers temps. Alors, pas forcément que de sportifs noirs, également de sportifs blancs. On sait que vous êtes très engagé dans cette cause. Est-ce que vous avez envie qu'il y ait une prise de conscience encore plus générale de ce fléau et de la présence encore de ce fléau dans notre société?
T'as été un des seuls entraîneurs noirs en Ligue 1
avec Sigana.
Antoine. Ouais, avec Antoine.
Vira.
Avec Jeannot.
Patrick Vira aussi.
Ouais, ouais. Patrick.
Oui, mais c'est bien sûr que c'est un combat qu'il faut mener et qu'il ne faut pas lâcher. Bien sûr que quand on voit des images, si je ne me trompe pas, c'est souvent. Là, quand Balotelli déjà joué donc en Italie, c'est souvent dans le sud de l'Europe où c'est un peu plus compliqué. Donc forcément, ça interpelle. Moi, j'ai encore des images de Samuel Eto'o, c'était en Espagne, hein, c'est ça, à l'époque.
Oui, oui.
Qui voulait quitter le terrain. Donc, ça interpelle plus, ça marque plus quand on est en plus de grands joueurs, quoi.
T'en as été victime, toi, Antoine?
Pardon?
T'as été victime de ça, de ce racisme?
Oui, 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 quand j'étais là, quand tu sais, moi, j'ai démarré donc à Nantes en 83. Donc, il n'y avait pas beaucoup de blagues dans les équipes. Mais nous, déjà, donc, là, à l'époque, là, quand tu allais jouer même en Bretagne, il ne faut pas en parler de quand on joue là-bas, c'était pas facile. Donc, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de blagues dans les équipes à l'époque. Il y avait José Touré. Donc, voilà, je crois qu'on était à 7 ans encore et on était 3, quoi, le mois, quoi, voilà. On n'était pas nombreux. Et donc, ouais, alors bien sûr, c'était des cris ou là, des méchancetés. Puis après, moi, en étant joueur du PSG, t'imagines, quand on allait jouer contre Marseille, là, donc, dès qu'il descendait en dessous de Lyon, donc, j'ai joué par exemple Martinique, et des événements tragiques, ou bon, des CRS, des gardes mobiles de partout. Donc, voilà, c'est vrai que des insultes. Moi, j'ai été donc avec Bernard dans les buts à recevoir des bananes, donc, voilà, sur le terrain, ça et tout. Voilà, mais après, tu combats, mais en même temps, donc ça ne bouge pas beaucoup, c'est le sentiment que j'ai. Maintenant, c'est bien parce que y a la prise de parole est encore beaucoup plus forte, c'est bien. Après, je vois donc qu'il y a souvent des actions menées, voilà, donc avant les matchs, on porte des t-shirts, stop racisme et tout. Donc, c'est bien, tant qu'il faut en parler, en tout cas, il faut en parler, il faut combattre ça, il ne faut pas lâcher.
Très bien. Antoine, merci beaucoup d'être venu dans Team Duga.
Merci Antoine.
C'est un plaisir.
À bientôt Antoine.
Je suis triste parce que tu es là, donc on va plus l'entendre, on va plus le voir. Donc voilà.
Tu vas me voir, t'inquiète. Tu vas me voir.
Mais je vais te voir ailleurs, c'est pour ça.
Voilà, exactement.
Ah bah, t'es le seul qui va le voir maintenant.
Merci Antoine Comboiré, à bientôt.
Salut,
merci
Antoine, pour
votre disponibilité. On revient dans une seconde. On finit quand même ce PSG Real 93 en vous entendant tous là-dessus. Et puis le Real ce soir, donc face à Valence. Fred nous dit tout sur cette rencontre. À tout de suite.
RMC, 18h-20h,
Tim Duga,
Jean-Louis Tour,
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 19h34, Tim Duga continue bien évidemment jusqu'à 20h sur RMC avec Julien Cazard, avec Laure Le Pailleur, avec Capitaine Larquet, avec Fred Hermel, avec Jean-Louis Tour, enfin que du beau monde autour de la table.
Bravo les gars, et n'oubliez personne.
J'ai oublié personne.
On sera un petit blind test tout à l'heure, 32-16 pour vous inscrire. Est-ce qu'on a tout dit sur PSG Real ou est-ce que vous avez des trucs qui vous sont revenus, je sais pas, peut-être Capitaine, Laure, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis tout à l'heure
Moi, juste dire une chose, c'est que récemment, en fait, forcément, au Paris Saint-Germain, on va fêter les 50 ans du club, et ils ont demandé justement de choisir un match qui était, le meilleur match pour nous qu'on considérait. Et moi, j'ai choisi celui-là parce que pour moi, il symbolisait beaucoup, beaucoup de choses. Et après, je dois dire aussi que dans les matchs qui étaient proposés, il y en a pour moi, ils sont pas assez symboliques. Et là, pour moi, il y avait vraiment quelque chose d'important avec, pour le coup, une remontada, mais cette fois-ci dans le bon sens. Donc voilà, c'est un match qui pour moi m'a marqué, a marqué les esprits. Et je pense que c'était important de le souligner dans tout ce qui a été demandé.
J'ai mis le même, Laure.
Moi, j'ai juste un truc, c'est quand même, pour te dire, le destin de ce club, c'est même dans ce match qui est une référence, il y a quand même, à la 95e minute, un but où même Girardi dit « c'est pas possible
». Oui, oui,
c'est-à-dire que Comboiré, il sauve le fait qu'on était encore dans un match où on prend un but, voilà, alors qu'on est censé se qualifier. C'est qu'il y a quand même un truc quand même dans ce club.
Et tu peux pas te plaindre de Thiago Silva à cette époque-là. Voilà, parce que t'as reculé.
Et non, mais c'est cette pipe de Comboiré, il est pas sur Michel.
Bon.
Dès que t'as le dos tourné avec
C'est terrible. Ne tourne jamais le dos.
Voilà, donc le PSG qui sortira face à la Juve en demi-finale donc de cette compétition. Et le Real qui sera en pleine reconstruction, la reconstruction qui payera vraiment en 98 avec la victoire en Ligue des Champions, hein, Fred.
Oui, parce que ce Real-là a mis 32 ans avant de gagner de nouveau la Ligue des Champions, enfin ce qu'on appelait la Coupe d'Europe des clubs champions, quoi. Enfin, c'est vraiment, alors, c'était pas ma volonté de rabaisser le PSG, mais le PSG, sincèrement sur le papier, était une plus belle équipe que le Real à l'époque. Quand tu regardes.
Te dire pire, rappelle-toi, l'année d'après, il re-rencontre le Real, je crois, en Coupe des Coupes, et là, le Real est nul.
C'est vraiment une équipe. Floro se fait virer entre les deux matchs, et c'est incertain. Je sais pas si vous connaissez Vicente Del Bosque, qui voulait pas être entraîneur, qui s'occupait des jeunes. On dit, Vicente, tu peux pas faire un petit coup de main, là. Et puis, il devient après l'entraîneur qu'on connaît. Donc, grâce au PSG, Del Bosque est champion du monde.
Merci.
Voilà donc pour cette époque. Je vous propose de revenir en 2020 avec la 29e journée de Liga. Donc ce soir, alors qu'il a débuté en ce moment par un petit Alavés Real Sociedad. Et ce soir, 22h, Real Valence. C'est une belle affiche, Fred.
Ah, c'est une très belle affiche. Ah, ouais. Très très belle affiche. C'est un match parce que
Valence qui n'est que 8e du classement.
Ouais, parce que Valence, ils ont commis notamment avec une bourde extraordinaire de Diakabi qui a commis un penalty à la 93e minute dans le derby contre Levante. Valence qui avait fait un match plutôt correct hein, pour son match de rentrée dans le derby, mener 1-0 et vraiment c'est hallucinant de faire un pénalty comme ça. Mais c'est pas la première fois que Diakabi coûte des points à Valence. Ce qui fait
ouais, que et puis les 20 ils étaient à 10. Hein.
Ouais, en plus.
Les 20 ils ont fini à 10.
Non, mais et on pense que même Diakabi devrait être sur le banc ce soir et que Coquelin devrait jouer défenseur central. Vous imaginez la situation de Diakabi. Et le Real Madrid qui a fait une très belle première mi-temps face à Ibar, qui comme toujours, dès que c'est un peu facile, s'est relâché, ce qui a énervé Zidane en deuxième période. Mais voilà, bon, c'est un match moi qui m'intéresse particulièrement parce que franchement, les premiers matchs, il y avait vraiment dans toutes les équipes beaucoup d'énergie, etc. Donc le contre-coup, après, moi, je veux voir aussi ce que ça peut provoquer. Voilà, un Valence qui a eu, qui a quand même dû beaucoup lutter contre les Ventais. Dans quel état physique ils seront après le deuxième match ? Pour le deuxième match, voilà, il y a beaucoup d'inconnus. Cette rencontre qui se dispute, je vous le rappelle, au stade Alfredo Di Stéfano, hein, oui, au stade de l'équipe B du Castilla.
À côté de l'aéroport, c'est ça là.
C'était exactement à côté de l'aéroport, d'accord. Exactement. C'est à 5 minutes et c'est dans le centre d'entraînement du Real, un stade qui avait été inauguré en 2006 face au Stade de Reims en hommage aux grandes heures du Stade de Reims et du Real Madrid en Coupe d'Europe. Et c'est une rencontre qui est décisive pour le Real était
assez prometteur contre Eibar offensivement. On a vu quand même
la première période.
Voilà, en première période.
Attends, Benzema Hazard, c'est un couple extraordinaire sur le terrain. Franchement,
voilà, c'est ce qu'on attend de voir ce soir aussi.
Ah oui, complètement. Et il faudra parce que Valence est une équipe qui, alors défensivement c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes, mais offensivement quand vous voyez le jeune Ferran Torres qui était l'une des pépites du football espagnol, Rodrigo Moreno qui est quand même pas n'importe qui, on verra soit Maxi Gomez soit Kevin Gamero à côté de Rodrigo. Non c'est Padrero numéro 10 qui est quand même un bon joueur. Non c'est un gros test pour le Real Madrid qui a quand même 5 points de retard sur le Barça qui a joué hier soir. Donc d'ailleurs les Madrilènes se plaignent beaucoup parce que tous les matchs, le Real joue après le Barça.
Et c'est un avantage normal.
Bah, ils considèrent que c'est une pression supplémentaire, que c'est un désavantage.
Il y a comme retour au but quand tu commences et que quand tu dois toujours revenir dans le score, c'est ça ? C'est qu'ils pensent que ça leur met la pression, les pauvres chéris. Ça leur met la pression.
C'est quand même un avantage.
De jouer dernier, après.
Ah, mais il me semble, oui.
Pour Real, ils considèrent que non.
Appeler Zidane pour lui expliquer.
Enfin, Zidane, il dit rien, il se plaint jamais, lui, mais
oui,
en tout cas, les dirigeants du Real sont
tellement merveilleux.
Non, mais ça va être un match très, très intéressant avec.
Formidable. Hazard, oui. Il est de retour au top, là?
Franchement,
Question poids aussi?
Ah non, mais il est très fit, vraiment. Bon, l'histoire du poids, c'était qu'en début de saison, hein, c'était jusqu'en septembre, octobre. Après, c'est vrai que sa blessure contre le PSG et la rechute, au mois de février, il laissait à penser que Hazard n'allait plus rejouer cette saison. Mais après, une Liga décalée de 3 mois pour ce qu'on sait. D'ailleurs, il a été titulaire d'entrée contre Eibar. Hein. Alors, on sait que Zidane est très prudent avec les joueurs qui avaient de blessures. Ça veut dire que pendant le mois d'entraînement, il avait été au top. Et c'est vrai que ça se sent. En plus, il s'est passé un petit truc, c'est qu'il a pris un bon coup de semelle sur sa cheville droite opérée.
Ouais.
Et là, on
s'est dit... C'est encore Meunier ou pas ?
Non, c'était un autre, mais un peu moins violent quand même que Meunier.
Et ça a tenu.
Et surtout... Il a dit à Zidane derrière, bah écoute, finalement, je suis content d'avoir pris le coup. Parce qu'il faut, moi, je sais pas, j'ai jamais joué, mais pareil que quand on a été blessé à un endroit, quand on reprend après un autre coup et que ça va, eh ben, on se sent bien. Il a dit, c'est bon, j'ai pris le coup et j'ai pas eu peur.
Bah, et si tu prends pas le coup et que ça va aussi, c'est bien, hein.
C'est pas mal aussi.
Voilà. Mais lui, il était content de se dire, j'ai plus peur de mettre le pied, quoi, voilà.
Benzema, Hazard en forme, ça peut te donner une raison toute simple de regarder le match, là.
Non mais exceptionnel. Et si les deux sont en forme au même moment, ils peuvent passer n'importe quelle défense. Ils peuvent régaler n'importe quelle équipe. C'est exceptionnel. Ces deux joueurs-là sont fit, sont top physiquement, sont dans leur poids de forme. C'est monstrueux.
Ça peut renverser City, ça ? Tu crois ?
Ah oui. Je pense que ça peut renverser City.
Là-bas, oui. Il y a 2-1 l'année à Bernabeu pour City.
Ça sera compliqué, bien sûr, parce que City est quand même très solide, mais avec ces deux joueurs-là, ils sont capables. Oui, bien sûr, j'ai aucun doute là-dessus.
Non, mais surtout, ce qu'il y a entre Hazard et Benzema, c'est que ils sont plaisir, ça se voit. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez quand des joueurs sont là, ils se disent, c'est comme si c'était à l'entraînement, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'amusent et tout est simple pour eux. Ils s'entendent des yeux fermés, quoi. C'est vraiment beau à voir.
Bon, on verra ce soir si ça se confirme contre Valence.
Ouais, en espérant que le match soit meilleur que celui du Barça, parce que hier le Barça c'était très très poussif quand même. Hein.
Ouais, et il a même fallu un penalty très très gentil sur Messi, hein, quand même, pour battre l'équipe B de Leganés. Ouais,
mais Gabriel, les poteaux, il a enroulé parce qu'il y avait les faits.
C'était il y a deux jours.
Il y a deux jours,
oui, il y a deux jours. Très bien. Pardon, un peu de précision. Donc,
ça fait deux fois que tu reprends Jean-Michel, mais après, ouais. Vraiment, t'as raison, Jean-Michel. Il a pris le melon, notre petit gars.
C'est pas une question de melon.
Et vous allez voir l'année prochaine.
C'est Captain Larquet qui m'a dit ça.
Non, mais c'est fini le Jean-Louis qui dormait avec toi, Fred. Là, c'est fini. Là, tu vois l'année prochaine.
Je dors avec toi. On a des nouvelles de Padreza, le mec de Washington et Louis
XIII. Non, il m'a envoyé Pedraza.
Je la connais à Madrid, mais c'est pas une joueuse.
Ah oui?
Oui.
Enfin,
je connais l'endroit où elle vit. Je connais l'endroit. Enfin, bref.
Non mais ça.
Mais t'as pas voulu venir. T'es sorti du taxi. Tu sauras jamais.
Ne racontez pas ce genre de truc.
Fallait pas sortir du taxi.
Laure, c'est la première à se marier, tout ça. Parce que Laure a compris que tout ça était faux, bien sûr.
Et
que
c'était des histoires. Pas sortir du taxi.
Il y avait pas de taxi.
La vie a basculé ce jour-là.
Bon, on revient dans un instant pour le blind test. Vous êtes prêts?
Je peux rester?
Bien sûr, Fred. Évidemment.
Moi, je veux tenir avec Laure.
Tu veux être avec Laure?
Ouais.
Oh bah moi, je suis pas très forte, alors peut-être que tu vas relever le niveau.
Non, bah Fred non plus, t'inquiète pas.
C'est sûr qu'il met des chansons modernes, alors que moi, je suis un vieux jeu.
Non, le joueur à avoir.
Tu peux être avec David Guetta, moi.
Le joueur à avoir, c'est Captain Larquet.
Ah bon,
pas, donc, voilà.
Si t'as Luis Mariano, c'est bon.
Je vais réfléchir aux équipes et on revient.
Mexico.
On peut rappeler Polo.
Je peux rappeler Polo parce que Polo sur le test. Il est bon.
Là encore, la programmation est vraiment très Polo. Allez, à tout de suite dans Team Liga. Tiens, petite info, 5 cas
positifs. Ah, quand même, il serait temps quand même, ça fait 2 heures, on n'a pas eu d'info depuis le début de l'émission.
Ça va pas ou quoi?
Dès qu'il n'y a pas Momo.
Ça fait 4 ans, en fait, il va nous sortir une info.
Mbaye Nyang, c'était quoi tout à l'heure? Donc, ouais. Saint-Etienne a publié les résultats des tests au Covid-19. 5 cas positifs, dont 3 parmi l'effectif professionnel. Voilà, 33 joueurs et 21 membres de l'encadrement ont été testés lors de leur arrivée mercredi, et donc il y a 5 cas. Voilà.
Et avec les joueurs s'en doutaient, il y avait des symptômes, il y avait quelque chose, ou c'est la surprise pour tout le monde, tu sais pas? Alors dès que je pose une question, il n'y a pas de réponse, tu peux y aller.
Là tu m'en demandes beaucoup. Mais bon voilà, écoute, les personnes sont isolées, ça je peux te le dire, à leur domicile. Non, mais alors,
demain on fera un beau débat, faut-il annuler la prochaine saison? Voilà, allez, c'est réglé.
Pourquoi pas la saison blanche. Actuelle blanche. Revenir à la saison, voilà. Pourquoi pas? Bon voilà, en tout cas, Saint-Etienne communique sur les mesures sanitaires, etc. Et
ouais, c'était une bonne info.
Ah, c'était pas intéressant.
Si, très intéressant.
C'est incroyable.
C'est-à-dire qu'en fait, tu nous donnes faim et en même temps, il n'y a pas assez à manger. Déjà rien? Ouais, c'est-à-dire qu'on se dit, ouais, mais qui c'est? Quelles sont les conséquences?
Alors, on va enquêter. Édouard G, Timothée Mémon sont sur le coup, j'en suis sûr. Nos suiveurs de la Saint-Etienne. Ils vont appeler Captain en disant, alors, t'as pas eu d'info, Jean-Michel? Voilà, il va dire, non, je parle plus à personne à Saint-Etienne. Enfin bon.
Ils vont appeler Romeillet. On va dire, attendez, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis même pas au courant. Bon, bref.
Possible en plus.
Mais de toute façon, il est resté enfermé dans le musée des Verts depuis 3 jours. Là. Il sait même pas ce qu'il
fait. Non, mais arrête, c'est l'ami de Jean-Michel. On peut pas parler comme ça de Roland Romeillet.
Mais j'adore Roland Romeillet. Très belle rencontre.
Non, Captain, tu pourrais le défendre quand même.
Non, mais je vais pas le défendre. Julien l'adore.
Mais c'est vrai en plus.
C'est vrai?
Ah, mais moi, il m'a fait visiter le musée des Verts. J'ai passé un excellent moment et je suis reparti avec une petite lanterne de mineur. Qui est une tradition des Verts.
C'est normal.
Ah ouais. Tous les endroits où on peut picoler, il y est.
Moi,
on picole alors, pas dans un musée, du gars.
Alors si.
Ah bon,
tu vas pas.
Allez, à tout de suite.
Bah, à cette
RMC, 18h20.
Team Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, les amis, 19h48. Ça y est, c'est le moment, vous le savez, le jeu que le monde entier nous envie. C'est le moment du blind test.
Exactement. Alors, nous allons faire.
Avant, je pourrais féliciter quelqu'un, s'il te plaît, mon Jean-Louis.
Ah, bah bien sûr.
Je voudrais féliciter Laure, qui est maman, donc je voudrais la féliciter.
Ah, ça y est, c'est fait. Bah, bravo, Laure.
Bah oui, elle dit rien. Elle dit rien, mais c'est pas possible, ça, alors.
On peut dire le prénom?
Oui.
Alors, vas-y.
Bienvenue à la petite
Corinne, salle. Corinne Diacre. Non.
La meilleure vanne de la journée. Non, vas-y, Laure.
Thaïs.
Bienvenue à Thaïs et félicitations, Laure. Bravo.
Et bien, pour la peine.
Corinne va pas être contente, mais enfin, bon, ça, c'est pas grave. C'est bon. J'espère qu'elle sera au moins, marraine, j'espère.
Ah, bah là, j'en suis sûr.
Non, pas de marraine.
Bon, il n'y a pas de marraine. Très bien. Bon, félicitations, Laure, en tout cas. Tu feras équipe avec Duga dans ce blind test. Et donc, Fred Hermel.
On va fêter ça.
Voilà, allez. Ouais. Sacrée équipe. Et donc, Julia Cazard, Captain Larquet.
Là, vous avez. Vous pouvez rigoler d'avance. Allez.
Non, mais je pense qu'il faut laisser la musique à Captain. Et Julien te fait l'équipe.
Ah, j'ai tout à Captain, moi. Moi, je soutiens Captain.
Avec vous, Yanis et Vincent sont là. Bonsoir, Yanis.
Bonsoir.
Alors, salut. Tu veux faire équipe avec qui?
Ouh, la question piège. Ouais, je vais prendre Julien.
Hein. Julien Cazard, Capitaine Larquet.
Alors, je te préviens, moi, je ne fais que soutenir Capitaine Larquet.
Moi, je prends Capitaine Larquet.
Vincent, ah ouais. Bonsoir.
Il a son automne et tout, s'il n'entend rien.
Vincent, sache que tu es avec l'équipe des cheveux longs, puisque Duga, Laure et Fred ont eu les cheveux longs un jour.
Ok, bonsoir à tous. Félicitations à Laure déjà.
Ouais.
Bah oui. Et puis ça me va très bien parce que j'ai la même coupe que Franck Leboeuf.
Ah oui, maintenant ils ont tous la même coupe que Franck Leboeuf.
Sauf moi.
Franck Leboeuf, Franck Leboeuf qui va être maire de Suresnes, on l'embrasse.
Okay. Il lui aussi croit quoi.
Il y croit.
Allez, on y va. Une chanson, vous trouvez l'interprète et derrière il y aura une question foot pour les vrais connaisseurs de foot. Bien sûr, on y va. Ça c'est pour Captain.
Cabrel ?
Non.
Et c'est encore, c'est pas la même qu'un frère ?
Tracy Chapman ?
Non.
Le
Forestier. Oui, Fred Hermel, Maxime Le Forestier.
C'est une
maison bleue.
Magnifique cette chanson.
Et donc c'est Fred Hermel qui répond hein, avant toi, Captain.
Bravo, Fred. Franchement, je pensais qu'il allait dire c'est une maison blanche, moi.
Fred, oui, bien sûr. Continue, évidemment.
Pour une fois que tu dis.
Alors, Maxime Le Forestier. Donnez-moi un joueur de foot qui a la particule Le dans son nom.
Le marchand,
Capitaine.
Le Gret, tu sors Le Gret. Hein.
Le Gret, oui. Ça passe pas. Non, j'ai bloqué sur Le Gret en fait.
Mais Le Gret, il a jamais joué au foot.
Bah, à ton avis.
Ah bah, à mon avis, si le président de la Fédé, il a dû au moins taper dans un ballon une fois dans sa vie, non ?
Mais
non.
Il a le corps du passe-partout à la tête de Cabu.
Bref, ces propos n'engagent que toi. Je me désolidarise évidemment pour ce que tu viens de dire.
C'est tout pour moi, merci.
On embrasse.
J'ai vraiment aimé faire partie de cette émission et de ce métier du football. Au revoir.
Donc ça fait un partout, même si ça pourrait mériter un point pour Julien, mais non, quand même.
Ah ouais, je pense qu'on peut lui donner.
Non, quand même. Nouvelle chanson, on y va. C'est pour Captain.
Stromae.
Non.
Alors, non, je sais pas.
Ah oui, c'est Cavini.
Qui c'est Cavini?
Picardie, les Hauts-de-France.
Bah ouais, c'est ça.
Non, Fred, il est Carlos Cavini. Ça n'a absolument rien à voir.
Toi, c'est Camerini. Qui est Cavini?
Cavini, Captain, tu l'avais pas?
Ah non, celui-là, non. Celui-là, il peut me marcher sur les arpions, Cavini. C'est un gars ou une fille?
C'est un gars.
C'est un gars.
Mais c'est génial, en plus.
Frérot, hein.
La chanson, c'est Marly Gaumont, figurez-vous.
En fait, c'est un rap, mais de village.
Ouais. Rap de village
conceptuel.
C'est ça.
Allez, enchaîne là. Allez.
J'enchaîne avec la question foot. Nous cherchons donc un joueur né en Picardie, comme Cavini, à Amiens, même précisément. Il est passé par l'Inter.
Antoine Varnier.
Sunderland, un joueur de foot.
Yann Mvila.
Oui, Capitaine Larquet, Yann Mvila.
Oui.
Incroyable.
Ah, tu sais ça, Capitaine, toi.
Ah, il est fan de Yann Mvila.
Il a ressuscité.
Je le supporte pas.
Il a pour l'accent picard.
Je le supporte.
Il parle pas.
Tu le supportes pas. C'est pour ça que tu sais. Où il est né, d'accord.
Ah, là, oui. Je sais pas.
J'allais finir en donnant comme indice qu'il avait dans les pieds une passe Ligue des Champions, comme disait Antoine Estienne à l'époque à Rennes. Ça fait deux
passes sur les antennes, Camini, lui.
Bah, à l'époque, c'était un tube, Capitaine.
Phénomène,
évidemment. On y va, nouvelle chanson, deux partout, match magnifique.
Gainsbourg.
Tommy Bugsy.
Non, pas Tommy Bugsy, pas loin.
Ah mais non, MC Solar.
Ah,
non.
Gims, Maître Gims, non.
Non.
Donc Gynéco.
Il est Saramère.
Non.
Ayam. Pas si.
C'est Vincent.
Ouais, c'est Vincent.
Bravo Vincent. 3-2 pour l'équipe du gars.
Bien joué Vincent.
Merci Vincent.
Franck Passy.
Et oui,
Gérald Passy.
Question sur Franck Passy, effectivement. Franck Passy a une ligne à son palmarès d'entraîneur.
Champion de France. Ah non.
Quelle est-elle, cette ligne?
Champion de Ligue 2.
Non.
Non.
Champion de France?
Non.
Adjoint?
Non.
Toulouse?
Non.
Mais c'est pas des clubs.
Je vous demande une ligne de palmarès, c'est pas un club.
Ligue 2, champion 2.
Non.
Champion de France amateur?
Vous ne l'avez pas. C'est perdu.
Gambardella?
Non. Finaliste de la Coupe de France 2016, gagné par le PSG.
C'est une ligne ça?
C'est une ligne ça.
C'est une ligne.
Non.
C'est pas un trophée.
J'ai pas dit qu'il a gagné un trophée. J'ai dit une ligne de palmarès.
Mais tu le mets pas sur ta carte de
visite, c'est ça? Bah toi, t'as 10 titres de champion de France, tu les mets pas, tes finales perdues. Mais certains les mettent, voilà.
Mais mec, il y en a qui mettent les finales achetées. Pourquoi pas les finales perdues?
Ça fait 3-2.
Cadeau.
Et voilà, magnifique Julien. Nouvelle chanson, match toujours aussi serré.
Avec qui on joue, nous, Julien?
On joue avec Yannis.
Mais c'est Jonathan.
Yannis est là.
Ah oui, Julien. Au Champs-Élysées.
Et oui, trois partout. Julien, il répond. En même temps, il répond à Captain Larquet.
C'est quoi ces chansons des vieux, là?
Bien joué, Julien.
Le soleil sous la pluie.
Passy et Camini, c'est
pour toi,
Miguel. C'est plus regard Passy encore.
Aux Champs-Élysées.
Faussement jeune.
Jonathan, les Champs-Élysées. Quel est le joueur de chant le plus utilisé au PSG cette saison?
Verratti.
Non.
Verratti.
Marquinhos.
Non.
Marquinhos.
Non. T'as rien de répété.
Mbappé.
Ah, le joueur de champ.
Marquinhos.
Non, 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 toujours pas Marquinhos. On peut réessayer, mais c'est toujours pas.
Di Maria. Gaï,
Gaï, Di Maria. Di Maria. Captain Larquet.
Oh, merde. Oh, t'es là.
4 à 3.
Entre Jonassin.
Nul.
Caminis, il m'avait. Je l'avais.
Caminis, c'est
Manu. Il est grec. Bon, j'arrête là. Avec qui on joue, nous?
Toi, tu joues avec Julien et Yanis. Yanis qui a répété Marquinhos après tout le monde. C'était bien tenté, Yanis. Mais ça n'était pas ça.
Ouais, on sait jamais.
Ouais, on sait jamais, bien sûr.
Julien, t'as trouvé une réponse.
Jonathan,
juste avant.
Offrero.
Nouvelle.
D'accord.
Offrero. Manque pas de respect, frère.
Quand t'appelles Captain Offrero. Allez, 4-3. Dernière chanson et dernière question foot derrière. Voilà pour 4
points.
Jay-Z. Jay-Z, du gars Jay-Z, bien sûr. Oh, okay. 4 partout.
Je connais pas.
Du gars qui peut remercier bien sûr l'agence du Gary autour de lui, qui lui permet de
faire un truc de France.
Ah, chacun s'organise comme il veut, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Il a une équipe, il a une équipe. 4 partout, la question foot qui va être donc cruciale. Donnez-moi un joueur de foot dont le nom commence par un Z. Jay-Z.
Zidane.
Zidane.
Ah bah Zidane.
Oh, j'ai eu du gars sur Zidane. Non,
j'ai pas pensé.
J'ai eu du gars
sur
Zidane.
Victoire.
Je sais pas qui c'est.
De l'équipe de Yanis.
Moi je parlais du fils, hein, le gardien. Hein.
Bien sûr. Ah,
Lucas.
Bien
sûr. Lucas Zidane.
Alors, Fred ne connaît pas, j'ai l'impression, ce joueur. Hein. Fred
non, non, ça, franchement, je suis. Vous n'avez pas le truc à me recommander.
On a égalisé.
Non,
on a
gagné, Captain. 5-4.
On a gagné.
Bah oui, papa, je suis là, but en or.
Merci tout le monde. Yannis, envoie-moi un t-shirt RMC. Vincent, tu as bien tenté. Julien, merci, parle là-dessus merci. Après ce but en or.
J'ai un texto merci aussi de Monsieur Le Graët là.
Ah pour, oui, très bien, très bien. On lui envoie tout de suite. Merci tout le monde. Merci Fred Hermel. Merci Laure Le Pailleur. Merci Captain Larquet. Du gars, bon week-end puisqu'on bon est jeudi soir. Demain, 18h, Captain Larquet.
Ah oui, je retravaille demain pour les vieux, ils sont là quand même.
Roten Régal à 18h demain. Dans un instant, c'est par ici la sortie sur RMC. Ciao à tous.
RMC. 18h-20h. Team Dugas.